Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 12e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mars 2004, jour de la Saint-Cyril. Et à la Saint-Cyril, ne te découvre pas d'un fil, comme en avril, alors qu'en mai, tu peux faire ce qu'il te plaît. Un dicton qui illustre à merveille le thème de l'émission d'aujourd'hui qui sera la santé. Messieurs, dames, bonjour.
Santé.
Bonjour.
Vous avez vu, j'ai changé mon intro.
Santé.
Ça vaut le coup quand même.
Jolie intro.
Alors aujourd'hui avec nous pour parler de la santé, pour commencer, il y aura Cré. Qui commencera par...
Ah ben, je commencerai par faire attention à ma santé.
Eh ben écoute, on écoutera ça avec plaisir. Bon. Ensuite, Darty, qui n'est pas seulement un grand spécialiste de l'informatique, qui est aussi un grand sportif. Donc il va nous parler de jogging.
Oui, entre autres.
Entre autres,
et
aussi.
Je vais quand même faire un raccrocher un petit peu sur l'informatique au début, mais en faisant un petit détour par la médecine.
Et voilà. D'accord. Ensuite, si quelqu'un a la santé, bah, c'est bien lui, Numa, qui va nous parler d'un livre de Yann Moix, « Les cimetières sont des champs de fleurs ».
Le rapport avec le thème ?
C'est pas la peine.
Non, il y en a un.
Il y en a un.
J'ai réfléchi. Si, oui. En fin de compte, c'est sur la santé mentale.
D'accord.
Donc, on aborde la folie.
Ensuite, Flo, qui pour une fois va nous parler d'un film qui vient de sortir.
Oui,
qui Bravo. Passe dans des salles et tout, que vous pourrez voir.
Incroyable.
Donc, c'est un film anglais, The Mother. Hein, merci.
Quel accent.
Cela dit, je vais quand même mettre un bémol, parce que le temps qu'on mette l'émission en ligne, ça se trouve, il passera plus. Hein.
Non, il est parti pour durer, celui-là, il va durer.
Et ensuite, nous finirons par Béatrice, qui nous parlera de la santé à la télé. Comment on traite la santé à la télé.
Voilà.
Très mal.
Bah, oui, voilà. Verra, bah vous allez voir. Elle va nous expliquer tout ça.
C'est la Saint quoi aujourd'hui, tu disais déjà ?
C'est la Saint-Cyril. Ouais. C'est un vrai dicton. Hein. S'il passe dans des émissions de radio, donc c'est forcément un vrai dicton.
Oui, effectivement.
Oui, forcément.
Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Hein. Perdons pas de temps. On est nombreux aujourd'hui. Ça va prendre du temps.
Voilà.
Alors, Bacré.
Voilà. Et commençons donc à faire attention à notre santé.
Voilà.
Alors justement, ça tombe bien, justement c'est d'actualité. Comment faire pour améliorer sa santé ? C'est aussi une campagne du ministère de la Santé que notamment les Parisiens ont pu voir dans les couloirs du métro, mais qui passe aussi, j'ai appris ça il y a peu de temps, à la radio.
Oui. Excuse-moi, je croyais que c'était une campagne du ministère de l'Intérieur pour améliorer la santé.
Ah bon ?
Si. Oui, pour améliorer la qualité de la santé.
Oui, d'accord.
De la maison.
La maison.
Merci.
Ouais.
Non. La campagne du ministère de l'Intérieur, c'est pour augmenter la santé, pas pour l'améliorer.
La santé pour tout le monde, quoi.
Voilà. La capacité de la santé.
Donc, on va pouvoir se pencher sur ces conseils donnés par le ministère de la Santé. Et puis, je suis aussi allé voir un petit coup sur Internet quel genre de conseils on pouvait trouver pour faire attention à notre santé. Et je suis aussi allé voir dans la presse. Et enfin, quelques rappels, quelques évidences que vous connaissez déjà, mais sur lesquelles je fais exprès d'insister. Donc d'abord, la campagne du ministère. Donc, j'ai essentiellement retenu un message. Il faut faire 30 minutes de marche rapide par jour. Alors on voit marquer ça en grand bandeau dans le métro notamment. Et là pour moi je crois qu'il y a quand même une erreur de communication. Parce que faire de la marche c'est évidemment excellent pour tout le monde. Tout le monde le sait déjà d'ailleurs. Mais si on en demande trop, de toute façon on n'obtient rien. Si on veut obtenir un résultat, il faut toujours fixer un objectif réaliste. C'est quelque chose qui est vrai pour tout de toute façon. Et si on veut que que ce soit efficace, il faut que le public visé se sente capable d'atteindre cet objectif ou ait envie d'atteindre cet objectif. Et là, en l'occurrence, balancer dans le métro qu'il faut marcher 30 minutes par jour, laisser sous-entendre qu'il faut, par exemple, descendre une station avant, à mon avis, ça tient pas debout. Même si, effectivement, le fond du message est quand même vrai, dans le sens où faire de la marche, c'est bon pour la santé. Faut voir que la plupart des gens qui prennent le métro, de toute façon, en général, habitent une grosse ville. Et si c'est notamment comme à Paris.
Une grande ville.
Une grande ville, j'ai dit une grosse, autant pour moi.
On est marié à une grosse femme et on habite une grande ville.
Non, on peut être marié à une grande femme.
Quand vous passez, aussi, quand vous passez une heure,
une grosse femme.
Quand vous passez une heure dans les transports en commun, quand vous vous occupez d'emmener, d'aller chercher les gamins à l'école, quand vous devez en plus aller faire les courses, franchement, vous tapez 30 minutes de marche rapide comme ça en plus, vous n'en avez pas spécialement.
Non, c'est
envie.
Pas en plus, ça en fait partie. C'est du sport.
Sauf si tu descends, comme ils le disent, une station de métro avant.
Ouais,
dans
mais
le
même,
type de marcher.
Marcher dans le métro, bon après, c'est pas peut-être pas très bon pour les poumons, mais ça en fait partie. Dans une demi-heure, tu peux faire tes courses avec justement tes gamins, les sacs, machin et tout.
Oui,
les d'accord. Femmes vivent plus longtemps. Mais... parce que les femmes portent les courses, la poussette, le bébé, le machin, le truc.
Oui, c'est ça. Je préfère
mourir jeune dans ces conditions.
L'eau pendant des kilomètres et tout.
Pieds nus dans la neige.
Béa, je suis d'accord avec toi. Mais justement, je pense qu'il y a encore une fois une erreur de communication. Je pense que justement, s'adresser à des Parisiens pour leur expliquer qu'il faut marcher 30 minutes de plus,
ça les rend
vénères. C'est une erreur dans la mesure où, de toute façon, les Parisiens font partie de la population française qui marche déjà beaucoup.
Oui.
Donc,
non,
à mon avis, il y a une erreur de communication.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner.
Il faut marcher une demi-heure en short.
Voilà. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que cette campagne, bon, apparemment, elle a duré un peu plus longtemps à la radio. Par contre.
Oui, elle passe encore à la radio.
Elle passe encore à la radio. En revanche, au niveau des affichages, elle est mieux faite, hein. Au niveau des affichages que j'ai pu voir dans le métro, ça a pas duré longtemps. Ça a dû durer 15 jours à tout casser. Et il reste encore peut-être quelques affiches, ça et là, mais finalement, la communication, elle a duré que dalle, quoi. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi cette campagne a duré si peu de temps. De ce point de vue-là.
Enfin, on lance un appel.
Voilà, on lance un appel si quelqu'un peut répondre.
Nos auditeurs,
une campagne plutôt anorexique sur la santé, je trouvais ça assez rigolo. Enfin bon, bref. Donc ensuite, j'ai essayé de chercher des renseignements sur cette campagne. Donc je me suis penché vers Internet. Donc j'étais sur Internet, j'étais voir le site du ministère de la Santé. Et alors là, c'est intéressant parce que quand même, on est drôlement bien renseigné sur le site du ministère de la Santé. On y apprend notamment que grâce au nouveau projet gouvernemental décidé par le gouvernement, les Français auront vraiment de quoi remercier le gouvernement. D'ailleurs, on vous conseille de lire le dernier communiqué du gouvernement qui vous explique comment le gouvernement a fait en sorte que tout aille pour le mieux. Bref, j'ai rien trouvé sur la dernière campagne.
Ils disent pas comment, ça va mieux, mais ils disent pas comment.
Voilà. Donc j'ai rien trouvé sur la dernière campagne de sensibilisation sur la santé. D'ailleurs, j'ai trouvé aucun conseil sur la santé en général. Mais bon, après tout, c'est le site du ministère de la Santé, pas okay, celui de la santé des Français.
Mathéi a autre chose à faire. Hein.
En tout cas, voilà, il a l'air de péter la forme, le gouvernement, qui gouverne sur le site du ministère de la Santé grâce au gouvernement. Bon, un peu frustré.
Combien de fois au gouvernement, là ?
Ah bah, je sais pas, j'ai pas compté. Un peu frustré après cette consultation, j'ai donc cherché sur d'autres sites des administrations françaises et... on a beau faire le tour, très vite, on retombe assez vite sur une page du site du ministère de la Santé qui nous indique que le gouvernement veille à ce que le sujet qui vous intéresse soit gouverné correctement. Dieu soit loué.
Nous sommes sauvés.
Donc, je suis allé quand même sur le site de la Sécurité sociale. Sur le site de la Sécurité sociale, si vous voulez trouver un renseignement, il faut d'abord aller sur la page D4 et ensuite sur la page E49 qui vous permet de cliquer sur le lien vers la page RZ5 que vous pouvez... sur laquelle vous pourrez constater que vous êtes de retour sur la page d'accueil.
Ah, ça c'est tout la sécu.
Voilà.
C'est la sécu. Donc, sur Internet. C'est fidèle, quoi. C'est
voilà,
clair.
Voilà, c'est fidèle elle-même.
Toutefois...
ça ressemble à la réalité Internet.
Voilà. Vous pourrez
la
toutefois,
virtuelle.
Dans certains cas, atterrir sur une page qui vous signalera que le renseignement que vous recherchez est disponible dans la caisse la plus proche de chez vous. Donc, merci
Internet. Donc, si t'as une après-midi à perdre. Voilà.
C'est comme quand tu téléphones à la sécu, c'est pareil. Ils
c'est pareil.
Disent, mais faut
c'est...
venir.
Mais non, mais c'est bien parce que regarde, comme ça, tu marches jusqu'à ta sécu.
Tu marches jusqu'à
la
sécu.
Tu marches, une demi-heure de marche, impeccable.
C'est la stratégie.
Et être debout très très énervé, c'est bon pour la santé.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, parce piétiner. Que tu piétines. Alors, une deuxième demi-heure de marche. Peut-être même une heure, deux.
Ah, mais piétiner, non. C'est pas bon. On a dit marcher vite.
Ouais.
Personne bon. T'empêche de piétiner vite.
Parce que si t'es énervé que tu fumes un paquet de clopes debout ou assis dans un fauteuil, c'est pas mieux. Hein.
Il vaut mieux le fumer debout.
C'est cool. Moi, je marche vachement vite pour aller à la Signia, en fait.
Alors, la Signia, c'est, bon. C'est un bar.
Je peux poursuivre. Voilà. Donc, un peu navré par les sites du ministère public sur la santé, je suis allé voir les sites privés. Et là, horreur suprême pour tout rédacteur de sites publics de santé, les sites privés de santé parlent de santé.
Non.
Quelle honte. Et ils donnent plein de conseils pour aller mieux en plus. Alors, je ne vais pas vous les citer tous. Je suis allé voir notamment e-santé.fr sur lequel il y a plein de petits conseils dont vous pourrez profiter. Actuellement, les sujets là qui développent, c'est sur le goûter de 10h le matin pour les enfants, c'est pas bon du tout. Et puis, ils parlent évidemment de la cigarette, c'est pas bien de fumer et tout.
Pour les enfants, quel
scoop surtout, oui.
Voilà, quel scoop. Non, mais ils développent en fait, ils donnent un argument, je ne sais plus exactement lequel qui est assez intéressant. Donc, j'ai été également. Alors là, je vais essayer d'aller vite parce qu'on m'a signalé qu'il fallait que j'aille vite. Je suis également allé voir la presse. Et en France, j'étais assez déçu. On n'a que deux magazines exclusivement consacrés à la santé. Parce que après tout, il y a tous les magazines féminins qui sont consacrés à la santé. Mais bon, exclusivement consacrés à la santé, il y a que deux magazines. Il y a Santé Magazine et Top Santé.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, sur Santé Magazine et sur Top Santé, il y a à peu près 4 sujets qui tournent en boucle. Donc, si vous avez 12 numéros par an de Top Santé et de Santé Magazine, vous allez vous apercevoir très rapidement que de toute façon, il n'y a que 4 sujets qui sont traités. Comment perdre du poids, comment arrêter de fumer, comment perdre ses rides et comment rester en forme.
Comment rester en forme, ça c'est général quand même, ça traite
plein de sujets différents. Oui, mais la forme. Ah. Comment se sentir en forme.
Oui, donc ça ne se passe pas de la santé.
Mais pour garder ses formes, faut bien manger comme ça.
J'ai plus que 2 minutes, alors je vais en profiter.
Comment tu sais ça?
Ça veut dire ta gueule en langage poli. Hein.
Donc, le sujet qui tient quand même le haut du podium, c'est maigrir. Je crois que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magazines, 7 numéros de Santé Magazine et de Top Santé. Le haut de la couverture, systématiquement, c'est maigrir.
Et puis, c'est des nanas qu'on en besoin en plus.
Ah non.
Voilà. Sur les photos, oui.
On a
toujours.
Dit tout à l'heure, voilà, c'est pas toujours maigrir, des fois c'est rester mince.
Oui, ou faire attention à sa silhouette. Bon, donc voilà, sur les magazines santé, grosso modo, ça va pas vous apporter grand chose. Donc du coup, j'ai fini par me creuser la tête pour vous concocter quelques conseils sur la santé. Donc juste à toute vitesse, petits conseils vite fait. D'accord.
Bon. Ouais, il fallait dénoncer plus quand même la presse là. Je suppose qu'ils donnent des régimes à la noix. Oh, le sucre, dis donc, ça fait grossir. Quelle surprise.
Non, attends, moi, j'ai un super régime.
Et je suis sûr qu'ils parlent surtout de l'esthétisme et non pas de justement les problèmes que peuvent apporter une surcharge pondérale pour la santé. Et là, par contre, ce serait bon de le rappeler. Est-ce qu'ils en parlent?
Je n'ai pas tout lu dans le détail. En revanche, si on veut effectivement critiquer ce qui est marqué, je parlais d'un sujet que j'ai déjà abordé ici. C'est le tabac. Et notamment, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était pas mal. C'était lequel? Voilà. J'arrête de fumer avec ou sans volonté. Alors là, si vous me montrez quelqu'un qui est un vrai fumeur et qui réussit à arrêter sans volonté, vous me le désignerez parce que moi j'y crois pas.
Faut qu'ils vendent des magazines quand même. Hein. Si les gens les arrêtent vraiment, après ils ont plus de commerce. Hein.
Ouais.
Pour faire c'était du business. Pour ça, effectivement, ouais.
Donc effectivement, critiquer les magazines de santé, il y a de quoi faire.
Mais ça coûte combien ces plaisanteries?
Alors Top Santé coûte 2,50€ et Santé Magazine coûte 2,70€.
Et ben au lieu d'acheter les deux magazines, achetez un paquet de cigarettes.
Pas que la moitié.
Vous ferez le même prix. Bon, j'en arrive à mes conseils. Conseil numéro 1. C'est d'actualité. Évitez de s'engueuler avec Bertrand Cantat. C'est pas très bon pour la santé, c'est ça.
Pas surtout pour les filles, parce que moi j'ai pas peur de lui.
Surtout où il est.
Surtout avec les menottes, il me fait pas très peur.
Bon, conseil.
T'as tort, hein, les menottes dans la gueule, ça fait mal.
Conseil numéro 2. Faites du sport, évidemment. Mais pas avec Bertrand Cantat.
Non, pas du vélo, donc.
Pour rester en bonne santé, le sport est évidemment indispensable. Sauf moi,
pas la marche à pied, il paraît que c'est pas mal.
J'en profite pour pousser un coup de gueule contre la boxe, parce que je veux pas rentrer dans le débat de savoir si la boxe est un sport, mais je pense pas que se cogner sur la tronche dans le but d'obtenir le chaos de l'adversaire, ce soit franchement très bon pour la santé.
Non. Pour les neurones, c'est pas bon.
Surtout dans celui qui est KO.
Oui, surtout dans celui qui est
KO. Mais même à chaque point, ils en perdent je sais pas combien de plus des neurones. Déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup à la base.
Bah, ils feraient pas ça, tu
veux
dire.
Faire ce genre de sport.
Ouais, mais c'est beau, si tu veux, c'est que plus ils avancent dans la boxe, moins ils sont conscients de leur état, donc plus ils sont contents.
Voilà. Mais oui, c'est un peu ça. Et puis plus ils peuvent continuer.
Ils perdent des neurones.
Ouais.
Conseil numéro 3. Faites l'amour, mais pas avec Bertrand Cantat.
Oh, moi, bon, il me fait pas peur.
Avec les menottes.
Ah, bon, plus sérieusement, faites un bilan de santé régulièrement. Alors, il y a un bilan de santé qui est proposé par la Sécurité sociale, une fois tous les 5 ans. Bon, c'est pas forcément des experts sur les yeux, sur les organes, machin, chose que vous allez pouvoir voir. En revanche, il y a quand même des analyses de sang qui sont faites, tout ça, ça peut détecter des petites anomalies, notamment au niveau du taux de cholestérol.
Oui, c'est le meilleur moyen d'être malade.
Il faut pas y aller.
Et c'est quand même pas mal d'en profiter, ça veut pas dire qu'il faut y aller tous les ans, mais une fois tous les 5 ans, un petit bilan de santé, ça peut pas être mal, ça peut vraiment détecter des petites anomalies dont vous vous rendez pas forcément compte. Un conseil numéro 5, c'est d'aller chez le médecin si vous êtes malade. Quand on est malade, on va chez le médecin. Faut pas se donner des excuses du genre faut pas augmenter le trou de la sécurité sociale.
Oui, mais si, moi, je suis malade, je vais pas sortir pour aller chez le médecin, je suis malade.
Oui, non, puis attends,
et non, puis un rhume, il a pas besoin, hein, ça passe, une crève
oui,
aussi.
Voilà.
Hein, bon,
non, puis après, il y a d'autres histoires, mais... parce que si tu veux, moi, j'ai appelé un médecin là pour mon épaule, parce que je me suis un peu niqué l'épaule il y a un mois.
C'est pas vrai.
Si, et j'aurais pu.
Tu nous raconteras tes histoires de santé pendant ta chronique.
J'aurais pu demander plus tôt, n'empêche que quand j'ai appelé, la nana, elle me propose un rendez-vous dans 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, où mon épaule est tombée, où c'est fini.
Parce que là, elle est déjà plus 5 minutes, non, tu vois, donc tu racontras ça pendant ta chronique.
T'es gentille.
L'autre.
Moi, je parlais pas des gens qui arrivent pas à aller chez le médecin, je parlais des gens qui n'y vont pas, alors qu'ils devraient y aller. Conseil numéro 6. Alors là, c'est tout bête. Prenez le temps parfois de ne rien faire. Hein. Juste une petite minute pour souffler, pour se calmer, pour rien.
Seulement une minute.
Que une minute, non, on peut pas un peu plus.
Ah bah, si vous
voulez. 2 jours, par exemple.
Il y a des gens qui s'arrêtent jamais. Moi, je leur dis, mais péter un coup de temps en temps, ça détend. Hein. Voilà.
C'est vrai.
Crier, c'est du bien.
Et ça fait plaisir à l'entourage.
Non, justement, c'est très nocif pour l'entourage. Il faut le faire tout seul. C'est pas toujours facile de se mettre en
et
colère
c'est pas
tout
bon
seul.
Ça permet
d'évacuer pas mal de choses.
Roger Hanin.
Effectivement.
Ah non, me provoque pas, toi. Conseil numéro 7. Manger des légumes et des fruits frais. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Mais c'est pourtant vrai, je le répète. Il faut manger des fruits, des légumes frais, c'est très important.
Le raisin en bouteille, c'est considéré comme du fruit frais.
Ah non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, 2 verres par jour préservent de certaines maladies.
Quelle taille les verres?
Oh bah, non,
une
non,
bouteille,
non,
ça peut être considéré comme un verre, par exemple.
Non, des
parce que 2 verres, c'est vrai.
Le verre de table, ça fait quoi? Ça fait 25 centilitres.
Non, c'est ah, quand 12. Même
non.
T'as des grands verres, toi?
Non.
C'est des verres à limonade, 25.
BA, normalement, c'est 12.
12, pardon. Bon, bah, 1,25 alors.
12 verres de vin.
Bah, ouais.
Attends, on va laisser.
Conseil numéro 8, ne pas lire Top Santé ni Santé Magazine.
Ah, merci.
Moi, j'ai essayé récemment et ça m'a foutu le cafard. C'est des magazines pour hypochondriacs, ça. En dernier, et en guise de conclusion, conseil numéro 9, écoutez Quoique, la radio qui fait ce qu'elle peut pour vous aider à retrouver la forme. C'est-à-dire pas grand chose, mais bon, pas grand chose, c'est déjà ça.
Mais,
moi, bah, merci beaucoup.
J'aurais un petit truc à ajouter, c'est que c'est marrant, c'est que les sujets qui sont abordés là-dedans, là, arrêter de grossir, de fumer, lutter contre les rides, etc., c'est quand même vachement les sujets de tes premières chroniques, en fait.
Ah, j'ai pas fait les rides encore. Hein.
Bah, parce que t'es encore jeune.
Ouais, mais t'as arrêté d'être jeune, donc ce qui était l'inverse.
C'est voilà.
Mais,
ouais, c'est vrai, ça pourrait être ta prochaine chronique. Comment je commence les rides?
Non, tu vas commencer le rétinol.
Ça, tu pouvais faire je commence à rester jeune.
Oui.
Et
ça va tracasser ta santé en fait.
Le botox là.
Bah écoute, ouais. Merci beaucoup.
Ah, c'était avec plaisir.
Alors, une salve d'applaudissements. Une salve. Voilà. Merci pour lui. Donc maintenant, nous allons passer à quelqu'un qui va nous parler de sport justement et d'autres choses.
Oui, alors je vais commencer par l'autre chose parce que c'est pas spécialement réjouissant en fait. Donc je vais commencer par les trucs vraiment chiants quoi, comme ça on va en avoir pour quelques minutes et
ça sera fait.
On aura fini. Voilà, exactement. Donc en fait, je voulais attirer votre attention sur un truc qui se passe en ce moment et qui est assez similaire à ce qui se passe au niveau des logiciels, au niveau de la brevetabilité en fait. Le fait de déposer un brevet au départ, c'est quelque chose qui a été fait. Ça partait d'une bonne intention, c'était défendre l'invention de quelqu'un, en fait, la personne qui a une idée, en fait, plutôt que, entre guillemets, de se la faire piquer par quelqu'un d'autre, en fait, il peut la mettre en valeur et puis la réaliser sans être plagié tout de suite et puis quelque part rentabiliser l'effort qu'il a fait en termes de recherche. Le gars, il s'est creusé la tête, et donc voilà, bon, ça part d'un bon sentiment. Et en fait, donc alors le problème sur les brevets logiciels, en fait, il est assez simple, en fait, c'est qu'on est dans le logiciel à la limite de l'idée, en fait, et on arrive très très vite, en fait, à breveter des idées, ce qui quelque part au bout d'un moment bloque complètement bloque tout, parce que on ne pourra pas, enfin, comme on a une idée qui est brevetée, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, même si on contourne, on n'a vraiment pas moyen de faire quelque chose sans enfreindre le brevet. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui brevettent des bouts de génome humain, en fait. Et alors, c'est assez problématique, parce que le problème, c'est que des molécules avec ces séquences-là, nous, on en produit tous les jours, en fait. Et pour autant, il y a des gens qui sont propriétaires de ces séquences-là et qui, si jamais on essaye de commercialiser ce truc-là...
Il va pas falloir qu'on les paye parce qu'on produit...
Et justement, en fait, tout le débat est là. Alors,
Il en reste encore des génomes, parce que moi, j'ai un peu besoin d'argent en ce moment.
Non, mais alors, c'est assez intéressant, parce que tu regardes, par exemple, au niveau de tout ce qui est maïs transgénique, etc., bidule. Enfin, les semences qu'ils font, en fait, maintenant, qui sont génétiquement modifiées, très souvent, en fait, elles sont incapables de se reproduire. Justement, parce qu'en fait, ils veulent pouvoir les vendre, ils veulent surtout pas que toi, tu puisses toi-même les produire, en fait. Parce que l'idée, c'est d'en vendre, tu vois, Monsanto, etc., c'est ce qu'ils font, en fait. Ils te vendent le truc, et une fois que t'as goûté au maïs machin, bah, tu es obligé de racheter des semences, parce que sinon, ils se reproduisent pas. Mais par contre, évidemment, les séquences du génome humain, ça de manière évidente, ça se reproduit tous les jours chez tout le monde, en fait. Et donc, en fait, les gars se rendre propriétaire, en fait, de la séquence, en fait, et tu demandes au bout d'un moment de quoi ils sont vraiment propriétaires.
Oui, est-ce que le génome de qui ? Le leur ou
Bah, disons qu'en fait, ils identifient des séquences qui correspondent à certaines choses, en fait. Tu vois, ils vont dire avec telle séquence, en fait, avec telle séquence, tu vas coder, je sais pas, moi, tu vas dire que
tu vas coder un œil bleu.
Voilà, tu vas coder un œil bleu. Ils vont dire, nous, on trouve que...
Mais qui a commencé à faire ça? Parce que c'est les scientifiques qui vont...
C'est les
labos privés,
en fait, qui cachaient ça, en fait. C'est les gros pontes...
D'accord, voilà. Dans la merde.
Bah oui, voilà. Donc, mais on ne peut pas faire forcément grand-chose, puisque c'est un sujet qui... En général, quand on parle de génome, on pense plutôt aux enfants à trois têtes et aux modifications, aux clones, etc. On pense que c'est ça qui est dangereux. Par contre, en fait, ce genre de brevets, en fait, ils sont en train d'être posés en ce moment, en fait. Et bon, moi, je ne vois pas trop, à part faire du lobbying, etc. Alors,
ils doivent bien avoir des idées, genre ça va leur rapporter des sous un jour. Non,
C'est le grand problème du brevet, en fait, c'est que la plupart du temps, en fait, ça correspond pas forcément vraiment à une recherche, etc. C'est-à-dire que les mecs, ils ont trouvé un truc parce qu'ils ont les moyens de le trouver, en fait, financier, ou parce que des séquences, ils ont à tous les jours. Et en fait, l'idée, et moi j'ai appris ça à l'école, c'est qu'il faut tout breveter tout de suite, en fait. Quand t'es en entreprise, en fait, tu réagis comme ça, les gens, ils sont conditionnés pour faire ça, il faut tout breveter tout de suite, des fois que ça sert. Voilà. Donc bon. Bon, c'était un petit coup de gueule.
C'est angoissant.
Voilà.
Donc, à suivre.
Voilà. Voilà,
espérons que va durer très longtemps pour qu'on puisse en reparler dans
20
ans.
On finira par vendre l'enfant sur mesure, c'est-à-dire qu'on va acheter le génome des yeux bleus et puis le machin des trucs.
Ce qui est surtout emmerdant, c'est dans le cas de pour soigner une maladie ou autre, parce que si tu commences
ça existe déjà, en fait.
Le problème.
Mais la grande question, c'est que est-ce que tu peux t'approprier, tu vois, ce genre de choses, parce que les gars, en fait,
éthiquement, c'est pas précis, mais dans l'éthique médicale, non. Mais il n'y a pas de législation précise.
Voilà. Et en fait, c'est tout le problème.
Ça dépend des pays aussi.
Oui, mais c'est justement le problème, même dans tout pays, entre la santé et la législation.
C'est pas tout,
mais tu t'apercevras que pour tout ce qui est brevet et propriété intellectuelle, en général, tous les pays se mettent d'accord et il n'y a pas trop de problèmes.
Il n'y a pas trop de problèmes.
Ouais. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, mais là-dessus, en général, la plupart des pays industrialisés.
Mais moi, ça me fait penser à la Lune, quand on a mis un drapeau dessus.
Alors que normalement,
et après il a été défini que ça appartenait à personne, mais au début il y a quand même des Américains, ils ont mis un plein drapeau dessus.
Ils peuvent pas s'empêcher,
quand même.
Oui,
c'est plus fort qu'eux.
Des fois qu'il y en a un qui met un autre drapeau, donc quand même.
Oui, quand même.
Voilà. Bon, alors maintenant je vais vous parler d'un autre truc plus réjouissant, en fait. C'est un bouquin que j'ai lu, donc j'empiète un petit peu sur la rubrique de Numa, parce que c'est vrai que je parle d'un bouquin, mais bon, c'est un bouquin, à mon avis, il avait peu de chances de le lire. Bon, déjà, il est pas traduit en français, il est hyper rare, en fait. C'est un truc, moi, je suis tombé là-dessus parce que je m'intéresse pas mal à la course à pied. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le commander parce que c'était le bordel, parce qu'il a changé de nom. Au début, il s'appelait Racing des Antilopes. Et en fait, il y a eu un problème parce qu'il y a un groupe de rock qui a fait un bouquin Race like an Antelope la même année. Et donc, ils ont fait un procès. Enfin, ils n'ont pas fait un procès, mais ils ont dit au mec, bah non, tu changes le titre de ton bouquin parce que nous, on a un bouquin qui s'appelle pareil.
Oui, mais un peu comme le guide du retard intergalactique.
Exactement, voilà. Ce qui est dommage, c'est que lui, son bouquin, tu vois, l'autre, c'est un groupe de rock quand même. Donc, Race like an Antelope, tu te dis, bon, un groupe de rock, ça court pas, puis bon, les antilopes, bon. Alors que lui, c'est un bouquin où quand même, il a regardé les antilopes courir et puis il en a déduit un plan d'entraînement pour la course à pied. Donc, tu te dis.
Mais c'est le même rapport qu'avec le guide du retard intergalactique et le guide du retard. Quand on met les deux côte à côte, on voit bien que c'est pas pareil.
Voilà. Mais bon, lui, a priori, c'est pareil en antilope. Alors, en fait, ouais, c'est un mec qui était passionné de course à pied, qui a toujours couru, en fait. Et puis, qui était pas mauvais quand même, mais qui courait de manière assez épisodique. C'est-à-dire qu'il allait courir une fois, et puis après, finalement, il faisait des recherches sur les insectes, les animaux, tout ça. Et puis, un jour, sa 40e année, il s'est dit, mais quand même, ça serait bien si je faisais un 100 km. Ça se trouve, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis, ça se trouve, c'est mon truc. C'est vrai que je suis assez bon en course de longue distance. Allez, je vais faire un 100 km et je vais battre le record du monde. Bon, ok. Bon, il n'était pas mauvais, mais il était très loin d'être champion du monde et il avait jamais fait cette distance-là. Et en fait, il a regardé tous les animaux courir. Alors, comment il résolvait le problème de la longue distance? Donc, par exemple, il s'est penché sur des câbles. Par exemple, le chameau, en fait, c'est un animal qui est très, très endurant, en fait, qui est capable de faire 150 bornes par jour dans des conditions pas sympathiques. Et donc il a regardé comment il faisait. Donc le chameau, en fait,
Deux bosses.
Là, c'était plutôt les dromadaires, ceux qu'on.
Moi, je te parle des pattes. Les dromadaires, ils ont quatre pattes.
Ouais, mais tu sais qu'il, par exemple, il marche à l'amble, en fait. Mmh. Et ça, c'est en fait, lui, son analyse, en fait, c'est de dire que, par exemple, quand il marche à l'amble, en fait, il dépense plutôt moins d'énergie qu'un autre animal. Par contre, il est beaucoup moins stable. Et si jamais il a besoin de faire un détour dans sa route, il est beaucoup moins apte, en fait, à changer de direction, etc. Mais le chameau dans le désert, il s'en fout. Il est tout seul, il va tout droit. Changer de direction, tomber,
c'est toujours tout droit, il y a rien.
Et donc en fait, voilà, il s'est adapté sur tous ces petits détails là. Le chameau, il fait quand il va pisser, en fait, il va avoir une urine hyper concentrée, etc. Et donc il va économiser. Il est capable, par contre, aussi d'assimiler des normes quand il est d'eau d'un coup, ce que nous on peut pas faire. En fait, si on boit trop d'eau, on ne l'assimile pas. Éventuellement, tu peux avoir des problèmes au niveau du sang, etc. Et le chameau, lui, il est capable. Et c'est sur des tas de petits détails, en fait, des tas de petits détails que le chameau, à chaque fois, il est meilleur. Et au final, en fait, il arrive à tenir super longtemps. Et dans sa bosse, en fait, ce qu'il y a, c'est essentiellement de la graisse et des réserves d'énergie, d'ailleurs.
Ben mon chameau.
Donc voilà. Et donc il a regardé d'autres animaux. Il y a des insectes, parce que les insectes ne transpirent pas. Ça, c'est un des grands points forts de l'homme pour faire de la course de fond, en fait. C'est que l'homme, il transpire et c'est un moyen de se refroidir très très efficace. L'homme est certainement un des animaux qui transpire le plus. En fait, on a une réponse en termes de transpiration qui est beaucoup plus efficace que les autres. Et donc les insectes ne transpirent pas. Mais par contre, il y a des insectes qui doivent subsister dans les endroits où il fait très chaud. Et donc il y en a qui ont des astuces, notamment, je crois que c'est une variété d'abeilles, en fait, qui va chercher du pollen, etc., l'ingurgite, et se le régurgite dessus. Et comme ça l'humidifie et puis elle se refroidit. Donc c'est quand même relativement la classe de gerber dessus pour arriver à pouvoir voler plus longtemps.
Je crois qu'il y arrivait quand même.
Hein, c'est non, mais je, là c'est une réponse physiologique à un problème réel, quoi. C'est ce qui lui permet de survivre, donc c'est quand même
remarquable.
C'est
pour ça qu'il y a plein de gens qui se vomissent dessus.
Ça marche qu'avec le pollen.
Voilà. Alors aussi lui, il est convaincu, une de ses théories, c'est qu'il est convaincu que qu'on est vraiment des grands chasseurs, en fait. Donc il y a tout
oui, des grands chasseurs.
Voilà, exactement. Donc il y a tout un tas d'histoires où il parle de chasse, etc. Et donc, notamment, une de ses idées, c'est que l'homme, en fait, c'est un chasseur, mais il court pas très très vite, en fait, il a pas des grandes dents à serrer, il a pas ceci, donc évidemment, il y a les outils qui lui permettent de chasser, mais il les a pas forcément tout le temps eu. Donc, qu'est-ce qui a fait que l'homme a pu avoir sa bidoche, etc. Et donc, une de ses théories, c'est qu'en fait, on était assez mobile et qu'on était assez adapté à la course de fond. Notamment, en fait, donc il a un tas de raisons pour justifier ça. Et il a trouvé des Indiens, en fait, aux États-Unis, en fait, qui chassaient le cerf, mais en courant derrière et en l'amenant jusqu'à l'épuisement, ce qui est quand même assez balèze. Le mec, il courait derrière le cerf. Alors, le cerf, en fait, en général, il court très vite, il s'en va, il s'enfuit, il va à quelques kilomètres. Mais en fait, si tu le suis, au bout de plusieurs jours, t'arrives à l'attraper et puis tu peux le tuer.
C'est un peu le principe de la chasse à court.
Tout à fait. Mais là, c'est. C'était vraiment quasiment tout seul, quoi. Et en fait, tout seul derrière un animal.
Moi, je fais la même chose avec les gazelles.
Alors, on parle de santé.
Tu les rattrapes ?
Lui, pour s'entraîner, en fait, donc, faut pas croire que la course à pied c'est un truc qui est bon pour la santé. Lui, il faisait ça pour courir, pour pour faire la distance et pour la rapidité, pas forcément pour être en bonne santé. Son médecin, avant qu'il s'entraîne pour ce truc-là, lui avait dit qu'a priori, ses rotules, il pouvait directement les mettre à la poubelle, qu'il aurait de la chance s'il pouvait marcher après. Il s'est trouvé qu'il a réussi après à tenir 200 bornes par semaine pendant des mois et des mois, voire quelques années. Bon. Mais c'est pas forcément bon pour la santé. D'ailleurs, il a fait quelques essais qui sont assez rigolos au niveau de... Il se demandait qu'est-ce qu'il fallait boire en course pour pouvoir tenir. Donc il a essayé plein de trucs. Il a essayé de la bière. Alors, je pense sans alcool, hein. Il précise pas, mais je pense que c'est sans alcool, donc pas terrible. Il a essayé aussi de boire de l'huile d'olive. Ça doit être assez spécial, quoi. Tu cours, hop, tu bois de l'huile d'olive. Un mélange à base de miel aussi. Donc il a tout essayé. Puis finalement, il a pris du jus de fruits parce que c'était le plus efficace. Et donc,
on s'en doutait un peu.
Voilà. Et il a fait aussi des trucs du genre, c'est le principe du régime compensé. En fait, c'est l'idée, c'est que pendant un moment, tu vas t'entraîner comme un taré et tu manges quasiment rien. Et parmi ce que tu manges énormément de gras, en fait. Et surtout, tu manges absolument rien comme féculent, en fait. Et l'idée, c'est d'épuiser complètement les réserves de glycogène dans l'organisme. Et après, en fait, alors c'est hyper dangereux parce que tu risques vachement de choper la grippe et d'être malade, etc. Et après, en fait, tu te mets à bouffer des nouilles pendant deux semaines comme un taré pour refaire les réserves. Donc, en fait,
pour la réserve toute neuve et hyper efficace.
Voilà. Et en fait, donc il a fait sa course et en fait, il a effectivement gagné. Et il a enfoncé le record de l'époque de 35 minutes, je crois.
Des 100 km.
Ouais. Mais c'est des courses, c'est entre 6h30 et 7h, hein, les premiers. Donc, il a quand même enfoncé le record d'une demi-heure. C'est pas mal. Et c'était en 81 et il a toujours le titre de champion du monde vétéran aujourd'hui, plus de 40 ans en fait. Donc il raconte pas que des conneries quand même. Donc même s'il y a des choses.
Ouais, mais on a des nouvelles de lui et de sa santé justement maintenant.
Bah écoute,
avec le recul.
Il a écrit son bouquin 20 ans après.
Ben ouais, il pouvait juste écrire.
Bah, il est champion du monde vétéran encore.
Bah, en fait, de toute façon, lui, le but n'était pas de spécialement s'améliorer la santé. Par contre, ce qui est clair, c'est que tous les moments où il a été sédentaire, en fait, il a eu des troubles de santé assez graves, en fait.
Oh, bah, être complètement sédentaire, c'est pas bon, mais être sportif l'extrême, c'est
pendant,
pas bon non
pendant
plus.
Pendant 6 mois, il a marché avec des béquilles alors qu'il avait 20 ans, quoi. Enfin,
passer d'un extrême à l'autre.
Ouais. En plus, c'est pas bon non plus. Hein.
Enfin, alors voilà. Toi, tu vas nous faire un petit 100 km aussi dans pas longtemps.
Ouais, moi c'est pas une course sur route comme ça, c'est en nature, mais c'est pas vraiment le même genre de choses en fait. C'est plus cool entre guillemets. Mais bon, ouais, je m'intéresse à ce genre de choses en fait.
Ben, je sais.
Mais je vous recommande la lecture de ce bouquin qui est assez original et notamment bien.
Parce que le récit
de la course, c'est pas mal du tout en fait.
Darty nous a obligés à faire des marathons sous la menace.
Voilà.
Le marathon du Médoc.
L'objectif raisonnable dont parlait Crête tout à l'heure, ça s'est matérialisé par on va faire un marathon, tiens.
Tout à fait, on l'a fait. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que justement, le marathon, on l'a fait à peu près dans les mêmes temps que le mec, il a fait.
Les 100 km.
Les 100 km.
On a couru deux fois moins vite, enfin un petit peu plus. Hein, enfin, un petit peu moins.
Une fois et demi moins vite, on précise.
Oui. Mais nous aussi, on a fait des essais.
Lucrétif, de
merci.
Ouais.
Merci beaucoup, Darty, c'était passionnant. Et puis bon courage pour tes 100 km à toi aussi.
Oui,
bon
et puis pour ton
bon
marathon
courage,
hein, de Paris et du Médoc aussi que nous allons refaire avec toi encore une fois. Parce que nous sommes gourmands. On a mal mais on aime ça.
De quoi, du marathon ou du Médoc?
Les deux.
Les deux. Autant allier l'utile et l'agréable.
Eh ben.
Donc ben, merci beaucoup. Et une salve d'applaudissements aussi. Hein. Super. Applaudis-toi, Darty, c'est toi qui fais le plus de bruit quand t'applaudis, donc ça.
Ah bon?
Ça
compte. Pardon, bah rien.
D'accord, bah c'était très bien.
Et on peut savoir combien de en fait il a dit dans la chronique ou on les comptera plus tard?
Je ferai un point.
C'est con que j'ai pas été là pour autant le thème, que de la fête, parce que avec le en fait.
Maintenant que je sais faire quelques petits montages audio, j'ai repéré 2-3 bricoles.
Autant d'en fait que de par le.
Ou des. Aussi. Donc maintenant, nous allons passer à Numa, qu'on va écouter avec plein d'attention. À toi.
À moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Donc,
ah.
c'est prévu, les rires. Donc de Yann Moix, qui a écrit il y a quelques années « Les cimetières sont des champs de fleurs ». Alors donc, dans un premier temps, je vais quand même vous le présenter. Alors donc, Yann Moix est né le 31 mars 1968, quelque part entre San Francisco, Pékin, Cuba et Sao Paulo.
Donc,
Donc, à l'époque, on peut dire qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé aux événements de mai, quand même. Voilà, en 1986, il obtient son baccalauréat. Ses parents sont très contents de lui, du moins j'imagine. Comme avec son bac, il ne veut pas aller dans l'île de Ré. De 1986 à 1988, il suit des classes préparatoires en maths sup et maths spé. En 92, il est diplômé de sup de commerce de Reims et se Reims pour fêter l'événement. En 19... Enfin, ça, je sais pas. En 1995, il est diplômé de Sciences Po Paris. En 96, il publie son premier roman, Jubilation vers le ciel, et reçoit le Goncourt du premier roman, ce qui est bien fait quand même, hein, quand même.
Tant pis pour lui.
Oui. Et le prix François Mauriac de l'Académie française. Donc je répète pour ceux qui ne le savent pas que Mauriac se lit nu dans la cuisine, ce qui est très érotique, comme le disait notre confrère regretté Jean-Yann, Yann qui n'a aucun rapport avec le Yann de Moix. Yann, l'un est un nom, l'autre un prénom, ou alors Moix est un prénom inconnu de ma part, et je ne me félicite pas de mon ignorance.
Là, voilà, bah, effectivement, on le connaît mieux maintenant.
Bah oui, ça situe. Bon, nous remarquerons aussi que l'Académie française ne décerne pas le prix Goncourt, ce qui non. est bien fait aussi, quand même. Non, faut noter les trucs bah oui, importants. Oui. Voilà, donc il suivra son deuxième roman, Les cimetières sont des champs de fleurs, en 97, lequel j'essaierai de vous faire apprécier, mais évidemment, c'est pas sûr. Puis Anissa Corto en 2000, ainsi que Podium en 2004, duquel il en tirera le film éponyme. Du vocabulaire. Hein.
Bon. Il a aussi du même réalisé... nom, tu veux dire
ouais, c'est pareil.
Ah, d'accord.
Il a aussi réalisé un court métrage, grand oral, avec Julie Depardieu. Donc, tout comme Podium, avec Julie Depardieu dedans, ce qui est moins vendeur qu'avec Gérard Depardieu, mais nettement plus joli.
Oui, oui, oui.
Non, mais je dis que des vérités. J'indique tout de même que je ne sais foutrement pas de quel sujet traite grand oral, mais quand même, on a de l'imagination. Voilà, Yann Moix. Yann Moix est aussi critique littéraire dans Elle, chroniqueur sur Europe 1, une petite radio concurrente.
Critique littéraire dans Elle.
Oui.
Ah, c'est un peu. Ouais.
Ça fout les jetons un peu. Bon, et sans doute qu'il fait d'autres choses le matin dans sa salle de bain, mais cela ne nous regarde pas.
Certes.
Il y pense en se rasant. Ah non, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui. Donc, Les cimetières sont des champs de fleurs. Donc, c'est publié chez Grasset. Oui, ça va. Tout comme ses trois autres romans.
Oui.
Voilà.
Il est fidèle.
On le trouve aussi en livre de poche. Donc, et il est important de noter.
Notons. 3 sur 20.
Donc, pour cela, prenez un papier et un crayon.
D'accord, voilà, j'attends. C'est fait.
Non, j'attends toujours, non. Sylvie, je te fais seule. Chez toi, prends ton crayon. Non. Pas celui-là, non, il écrit plus. Non, tu t'en sers pour écrire autre chose. Non, Sylvie, voilà. Donc, prends le crayon, un post-it à côté du téléphone, voilà. Donc, tout le monde est prêt. Donc, code ISBN 22 46 53 47 12. Je répète. 22 46 53 47 12. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, ceci fait, de quoi parlent les cimetières sont des champs de fleurs.
De quoi ça parle?
D'amour.
Ah.
Mais d'un amour particulier, de l'amour fou.
Mais quel rapport avec la santé?
Et voilà, hop, je suis dans le thème. La folie, santé mentale et zap, dans le thème.
Voilà, zap.
Et hop, voilà, donc ce roman d'amour, donc là maintenant j'ai un petit peu précisé, donc je vais vous raconter le début, en fait ça me paraissait le plus simple. Enfin, donc ce roman d'amour, donc ça commence par la mort de deux enfants dans un accident de voiture, donc c'est pas très drôle.
Ouais,
leur mère Élise. Leur mère, Élise, qui conduisait survit. Gilbert, son mari, lui voue désormais une haine sans pareil. Salaud. Il décide de lui faire payer en la torturant moralement. Donc c'est ce... Oula, c'est très mal écrit. Hein. C'est...
Tu peux t'en prendre qu'à toi. Hein.
Je m'en prends qu'à moi. Ah ben voilà, bah oui, non, en fait, il suffisait que je dise tous les mots comme ils sont indiqués. Puis en fait, ça faisait une phrase...
Ah bah ouais,
c'est pas bête, hein. Donc c'est ce que... Bon, je reprends la phrase au début. Donc il décide de lui faire payer en la torturant moralement. C'est ce que détaille la première partie du roman. Une haine lyrique, tragique et désopilante, hein, ce qui est un petit peu déjà un peu
de l'humour noir.
Un peu, oui. Donc Élise, désespérée, finira par se suicider. Donc c'est sympa. Mais avant, elle a rédigé sur des petits carnets une sorte de journal dans lequel elle raconte qu'elle a toujours adoré son mari. Et cela malgré la cruauté de leur relation. De quoi?
De leur relation.
Ah non, non, excusez-moi, c'est que Flo était intéressé par le pâté.
Il y a un moustique alcoolique qui a sauté dans mon verre de pinot et
maintenant
il est
éphémère.
Ouais, c'est pas la grosse bête qui va manger, enfin c'est pas la petite bête qui va manger la grosse.
Non, mais il a bu un peu de son verre. Voilà, alors,
pas bah, c'est pas grave, laissez-le finir. Enfin, continuer.
Non, non, j'aime bien, moi, cette digresse, ça nous change après les régimes comme ça. Si on digresse. Bon, elles sont. On est facile. Donc son journal, le journal d'Élise, pas le livre d'Élise, ou je sais pas quoi.
Ni la lettre.
La lettre. Ouais, c'est chiant. La lettre à Élise. Enfin, voilà. Donc son journal est un hymne à l'amour. Voilà. Et sa lecture ébranle le mari.
Le mari qui l'a poussé à se suicider.
Voilà. Donc la haine de Gilbert pour l'assassine vivante va se changer en un amour fou pour une femme morte. Mais comment peut-on reconquérir une morte?
Bah, ça doit pas être facile.
Mais voilà, donc c'est. Bah après, pour le savoir, faudra lire le livre. Donc c'est violent, dégueulasse, obscène, drôle. C'est un roman d'amour fou. C'est bon, jouissif. C'est bon, très bon. Un délire de l'auteur. À vous de lire maintenant. Et voilà.
Ça a l'air d'être un sacré vicieux. Enfin, un type. Qui a plein d'idées.
Tu voulais pas lire un petit morceau pour donner un échantillon de ton bouquin, toi ?
Oui, c'était surtout pour parler du côté drôle dans la haine.
Bah, ouais. Vas-y.
Donc on va y aller parce que sinon après on comprend pas, on en parle. Mais,
Donc tu nous resitues un peu le passage ou c'est pas la peine ?
C'est pas la peine.
D'accord.
Voilà, donc l'assassine. Sourire en gueule, essayant ses flanelles devant le miroir du bungalow. Se tournant la hanche pour s'ausculter le troufion et s'exclamer des choses. À mort tout ça, je te noie le jambon sous les flots, jambon salé, et l'histoire à sa fin. Je ne parle même pas des vacances de glisse, flocons au col, tout dehors les descentes, avec les accoutrements fluo qui coûtent le pire, et les veillées à 4 heures, avec le vin bouillant qui défigure les viscères. Tous ces blonds moniteurs, forts, bistres, très bêtes, et si membrés que les échos ne répercutent bientôt que leur jouissent à 2000. Et l'assassine, ridicule et potiche, bâton planté dans la poudreuse, à faire peser sa fesse pour se mouvoir vers le vide. Les files d'attente au tire-boule, et les bûches à l'arrivée, dans le blizzard, et la place, et les snobs. Et où est mon forfait ? Voilà.
Le forfait, il est coincé sous le blouson.
Donc moi je sais pas, moi j'ai trouvé ça drôle.
Oui, oui, non, mais c'est drôle, hein, Darty.
Oui. Ça ne me dérange pas de non, faire non. Un blond, hein, faire un
non.
Flop.
Non, mais maintenant je rigole plus, parce qu'après, quand je rigole, machin, alors voilà, quoi. Non, mais j'ai remarqué que j'ai un rire tout ça qui se remarque, quoi, tu vois, donc bon je ris pas aux éclats, quoi, mais oui, effectivement.
Mais on dirait pas que c'est toi.
Donc voilà, après on peut en rajouter, on peut faire des tartines si vous avez des questions.
Non, on n'a plus de pain.
Ah,
il reste du pâté.
mais il reste du pâté.
Par contre, un petit poème serait le bienvenu.
Oui, donc, le poème.
Ah bah oui, le poème de Numa. Bon. Désormais célèbre
toi, pour les autres,
à travers
dit,
le
il
monde.
Il reste moins de 2 minutes pour Numa. Il dit maintenant.
Il reste même. Encore 2 minutes.
Et il reste toujours 2 minutes.
Et il reste une page blanche aussi devant lui.
Non, c'est mon poème.
Ah d'accord.
C'est de l'impro.
Non. Le thème donc c'était la santé.
La santé. Ouais. Donc tu vas nous faire un poème sur la santé alors.
Santé.
D'accord.
C'est vrai que c'est important.
Oui, bah, il faut, hein, parce que sinon...
Bah, et voilà. Sinon...
Je l'avais jamais fait, celui-là.
Non, je m'en souviendrai. Enfin, pas avec la bouche.
Tout est dans le phrasé. tout est dans le phrasé.
C'est rare. Merci pour nous.
Bah, de rien. Hein.
Alors bientôt, quoique en odorama. Donc voilà, c'est donc un tonnerre d'applaudissements pour Numa.
Mais merci.
Bravo, bravo.
Oui, je m'en suis rajouté un petit peu.
Bah, tu fais bien. Hein.
Bah oui, je sais, ça manquait.
Donc, et ben maintenant, Flo. Ouais. Donc, tu vas nous parler d'un film qui est en ce moment dans les salles.
Non.
Si, je vous promets, il vient de sortir.
Ouais, je l'ai vu.
Et c'est pas asiatique. Quelle
non,
chance.
Non,
c'est
non.
Européen.
Ouais, c'est un film anglais. C'est la petite note.
Il passe en VF aussi ?
Ça, je sais pas. On allait le voir en VO.
En vélo ?
Ouais.
Ah, d'accord. Donc, eh ben, vas-y.
Et voilà. Oui, alors voilà. Donc, je vais vous parler du dernier film de Roger Mitchell. Et pour que mes petits camarades assis tous autour de cette table et qui vont beaucoup au cinéma puissent resituer un peu le réalisateur, c'est le type qui a fait un coup de foudre à Notting Hill.
Malheureusement,
je vois le regard de Béa s'allumer. Tu connais ?
Je crois que je l'ai vu, oui.
Ça nous ressemble.
Non, je suis étonnée que.
C'est beau.
Que
je sois allée voir un film.
Un film qui a été fait par un mec qui a fait un film comme Coup de foudre à Notting Hill.
Mais j'ai vu Coup de foudre à Notting Hill.
C'est une très bonne comédie.
C'est excellent, Coup de foudre à Notting Hill. Je l'ai vu.
Ouais, on connaît, quoi.
Bah, non, c'est sympa, c'était cool. Ça fait augmenter les prix dans le quartier et tout, cool.
De Notting Hill.
Ah ouais, ouais, bien, très cher. Donc voilà. Mais alors, en fait, pour te rassurer tout de suite, Béa, cette fois-ci, c'est pas une comédie. Du tout. C'est un drame psychologique, comme ils l'écrivent dans le Periscope.
C'est triste, donc.
Ah, c'est triste. Et puis, je sais pas si vous avez déjà vu les drames psychologiques par Ken Loach, mais quand les Anglais ils font un drame au cinéma, ben, ils y vont pas.
Ouais, c'est bien noir.
C'est
dramatique.
C'est désespérant.
C'est dramatique.
Il y a des chômeurs dans le film.
Non, il y a pas de chômeurs.
C'est pas un film anglais, alors.
Non.
C'est vrai, ça.
Ouais, mais c'est un drame psychologique quand même, alors ça peut faire un film anglais quand même.
Bon. Souhaite.
Je vais essayer de vous résumer l'histoire, si j'arrive à tenir mes papiers. Alors voilà, donc c'est un couple de septuagénaires. Enfin, j'ai pas très bien resitué.
Quel âge ils ont ?
Mais dans ces eaux-là, hein, entre 60 et 70 balais, suffisamment vieux pour être grand-père et grand-mère.
70 en fait.
Ouais.
Pour nos amis belges.
Ouais, ou sextants.
Que nous saluons.
On aura dit des 70 génères, tu vois.
Bon, enfin bref. Donc, ils se rendent donc à Londres pour rendre visite à leurs petits-enfants et à leurs enfants. Et dès leur arrivée, on sent un enthousiasme débordant. Les enfants qui disent directement « Tu crois qu'ils nous ont apporté des cadeaux ?» Et puis comme ils voient les cadeaux « Ouais, bonjour papy, bonjour mamie !» Enfin bon, quoi, ça fait super plaisir. Eux, bien sûr, ne sont pas conscients, mais nous, spectateurs, on a bien tout vu, on a tout vu venir. Les parents, pareil, hein, ça fait pas 30 secondes que les grands-parents sont arrivés, ont distribué les cadeaux et que bon, ben, tu comprends, là, j'ai mon magasin cachemire et tout, il faut que j'y retourne. Et le fils qui dit, ouais, papa, désolé, j'ai quelque chose de très important. Pouf, 30 secondes après, la maison qui a été complètement retournée est vide, vide. Ils sont là, plantés au milieu d'une immense baraque dans Londres. Et il reste plus que le charpentier, un mec qui connaisse ni Dave ni d'Adam, qui est là, point. Bon, ben, démerde-toi avec ça.
Donc il y a un charpentier dans la maison.
Et oui, il y a un charpentier dans la maison.
Qui
quoi.
Refait la véranda.
Qui refait la véranda, point. D'accord. Mais c'est tout, là, voilà. On leur dit à peine, on leur dit même pas qui c'est, quoi. C'est.
Bah oui, mais faut nous le dire à nous aussi.
Ouais, voilà. Mais je reviendrai au charpentier plus tard.
Parce que toi, le mec du film qui a fait le film, il te l'a dit, en fait, qu'il était charpentier.
Non, parce que sur le coup, à ce moment-là, toi non plus, tu sais pas ce qui c'est, ce charpentier. T'es là, tiens, il y a un mec qui refait la véranda et tout. Si tu étais cool de dire, tiens, ben il y a machin.
Et donc, en voyant un mec qui refaisait la véranda, tu t'es dit, tiens, un charpentier. Non, on essaye de comprendre un peu la démarche.
La démarche psychologique. Ah, bah,
tiens, un charpentier, mais qu'est-ce qu'ils
font les zombies là ?
D'accord, non mais vas-y.
Voilà, donc voilà. Donc,
il s'appelait pas Joseph.
Non, il s'appelait pas Joseph. Il s'appelle Darren, mais ça on l'apprend plus tard dans le film aussi.
D'accord.
Donc voilà, donc nous voilà dans cette grande maison de vide. Alors, voilà, à l'occasion, il faut un peu connaissance rapide avec le charpentier. Puis le soir, les petits enfants, l'après-midi, les enfants reviennent, etc. On part voir la frangine, on revient, tac. Rien de spécial, on sait, si ce n'est que le soir même, Pépé se sent assez mal, une douleur très prononcée dans le bras gauche, ça fait mal, etc. C'est d'ailleurs à peu près le seul moment où on a l'impression que son fils s'intéresse un tant soit peu à son père. Et ça se termine à l'hôpital, une scène tournée, mais vraiment filmée sans fioriture. C'est très très sec quant au rapport affectif dans cette famille. Numa pourra témoigner, je pense.
Je témoigne.
Ouais, il n'y a pas de violon qui pleurniche à l'hôpital comme dans un film américain où ça aura fait chouin, 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 il est mort. Non, là pas du tout. Il n'y a que la grand-mère qui pleure en fait.
Donc, parce qu'il est mort.
Oui, il est mort.
Ah, bah, faut dire.
En plus, il est mort. Mais justement, sur le coup, on te le dit pas. Et tu le vois là qui est sur le lit, puis il bouge pas trop, puis personne n'a l'air de s'affoler. Donc tu te dis, il est encore vivant quoi. Puis tu vois la grand-mère qui pleure. Alors tu te dis, finalement, il est peut-être pas si vivant que ça. Si elle pleure et effectivement il est vraiment mort quoi, soin, et ça s'arrête comme ça. La scène d'après, on se retrouve direct tu sais trop où, vraisemblablement chez les grands-parents. Et là le fils, bon prince, bon seigneur, a raccompagné sa mère donc chez elle, loin de Londres. Elle lui a évité de reprendre le train et tout, c'est super cool. Et c'est là que le film prend un tournant. puisque lui commence à entrevoir, enfin imagine la vie de sa mère, la future vie de sa mère, en vieille veuve anglaise qui très dignement regardera la télé en buvant du thé, point final. Et elle, elle l'entend pas du tout de la sorte. Et là donc le fils lui sort « Mother, don't be difficult ». Autrement dit, « Maman, arrête de faire chier, quoi ». Et là, la mère de lui répond un truc du genre « Mais pourquoi j'aurais pas le droit de me montrer difficile ?» Et là, la chose est dite, il la ramène à Londres. Alors, je vous dis pas la tête de sa femme, qui, on s'en doute un peu, vu la teneur du film, est super contente de voir le fils arriver avec une valise, ce qui n'était pas logique. La grand-mère derrière. Et donc, elle va circuler entre chez son fils et chez sa fille. Et petit à petit, en fait, notre héroïne d'âge assez avancé va découvrir notre fameux charpentier. Alors, elle va apprendre d'abord que c'est le plus vieux copain de classe de son fils, qu'ils ont fait ensemble leurs études. Seulement, je crois que c'est quand il était à Oxford, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait, c'est Oxford, Cambridge ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, lui, ça l'a gonflé au bout de 2 semaines, donc il a arrêté, puis il est devenu charpentier. Non, pas charpentier, pardon, menuisier, merde. Enfin bon, donc...
Ah, merci.
Voilà, oui. Bon, il est menuisier.
Ce qui ne change pas grand-chose.
Ce qui ne change pas grand-chose, quoi. C'est, mais y a, on sent quand même cette différence. Moi, j'ai fait mes études, je gagne beaucoup de sous, et toi...
Sauf qu'il ne fait pas le toit, il fait la véranda.
Voilà, il fait la véranda. Toi menuisier, t'es mon pote, mais fais ton boulot. Mais ce menuisier, c'est pas tout, en fait. On apprend aussi que c'est l'amant de sa fille.
Donc du mari...
Non, c'est le menuisier et l'amant de la fille...
La fille qui
De la mère.
De la vieille.
La vieille, un fils et une fille.
De la sœur du fils.
D'accord.
Voilà,
de la petite fille, de la vieille.
Et alors, la véranda est où?
La véranda est chez le fils.
Bon,
chez
le fils.
La mère, elle a un fils et une fille.
Je
une
vous
fille.
Situe l'action.
Mais ils n'ont pas de prénom, ces gens-là?
J'ai oublié les prénoms. La
John.
Mère, non.
And Mary.
Non, mais
la mère s'appelle May, la fille s'appelle Paula. J'ai oublié le nom du fils qui est un personnage énervant. En fait, si tu veux, pour resituer, ce couple de personnes d'un certain âge a eu 2 enfants. Un fils qui a parfaitement réussi ses études, qui est pété de thunes, qui habite une maison gigantesque dans
et qui refait sa véranda.
Et qui refait sa véranda pour...
Avec son pote.
Voilà, enfin, non, qui fait
mais
faire
qui lui
sa
chie dessus quand même. Hein.
Qui fait faire sa véranda à son pote parce que comme ça, il le fait travailler, voilà. Il a bonne conscience, il le paie un peu, gna. Sa sœur, qui a moins fait des études beaucoup moins brillantes, voudrait devenir un écrivain, etc., n'est que prof dans un collège ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, elle n'est que prof et elle habite une maison beaucoup plus modeste.
Je voudrais
et elle
m'excuser auprès de nos auditeurs, professeurs, pour le « n'est que ».
Non, on a bien compris que c'était
parce que dans l'idée, c'est vraiment ça.
Voilà.
Si tu veux, c'est...
On avait bien compris.
Voilà, c'est une question de salaire en fait.
Non, on comprend que dans le couple, il y avait un des enfants qui était important, c'était le fils.
Celui qui gagne le plus de fric.
Ouais, voilà.
Et
parce
que
celui qui
l'autre c'était la
études,
celui
hein.
qui a le mieux réussi. Les deux enfants.
C'est celui qui fera les plus belles études, machin, etc.
Non, parce que la fille, c'est la fille.
Voilà, c'est une fille.
En plus.
Donc
déjà, elle part avec un handicap.
Elle part avec un handicap. Et donc en plus,
elle couche avec le menuisier.
Non, elle est tombée amoureuse du menuisier. Dont
mais ils n'ont pas couché ensemble.
Qu'est-ce qu'ils couchent ensemble d'ailleurs?
Bah alors.
Enfin, non, ils ne couchent pas ensemble, ils baisent ensemble, nuance, parce que le menuisier est marié.
Oh là là.
Le menuisier est marié avec un fils autiste, donc ça lui fait 2 raisons de ne pas l'abandonner.
Mais quelle histoire.
Voilà, et donc la fille demande à sa mère, oh maman, est-ce que tu pourrais parler à Darren, lui parler
Darren,
de moi, essayer de savoir...
Le menuisier.
Et essayer de savoir ce qu'il pense de moi, gna. Enfin, un sujet de gamine de 15 ans, quoi, qu'on tiendrait avec sa
donc
pote,
en fait,
quoi.
La grand-mère aimerait bien se taper le menuisier aussi.
Non, ça, c'est pas tout de suite, parce que sur le coup, la grand-mère, sur le coup, voit le menuisier, mais quelle espèce de brute, toi, je vais...
Comment je suis malin.
C'est quasiment... quelque chose du genre, toi je vais t'en coller une, tu as fait du mal à ma fille, tu vas voir, tu t'en sortiras pas comme ça. Et finalement, voilà, la mère aussi tombe amoureuse du menuisier. Là ça prend
charpentier,
des...
charpentier.
Non, menuisier,
oui. menuisier.
Il refait la véranda.
Voilà, il fait la véranda.
Le refaiseur de véranda.
Voilà. Bon, alors ça, c'est juste une partie, en fait, du film, comme si ça s'arrête pas là.
C'est les 15 premières minutes.
Non, ce ne sont pas les 15 premières minutes, on a beaucoup avancé dans le film. Non, ce ne sont pas les 4 premières minutes.
Mais vas-y, continue.
Voilà, donc Cela dit, Béa est pété de rire. Je voulais quand même te dire quand même, ce film est vachement riche quand même. C'est
vous dire.
Oui, dire à tous. Oui, non, mais Béa est tellement pliée de rire que si tu veux, moi qui essayais de l'émouvoir.
Tu parles d'un drame et toi t'es morte de rire.
Voilà.
C'est pas classe.
C'est terrifiant. Non, mais il y a des trucs qui font rire quand même dans ce drame parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pathétiques.
C'est quand même un film anglais. Il y a des trucs qui font rire.
Ah ouais, non, attends, les personnages, tu sais, sont vraiment.
Enfin, c'est pas Bédil quand même. Hein.
Non, les personnages sont hyper justes. Ouais. Et du coup, si tu veux, il met le doigt mais sur des travers, mais énormes. Quoi, si tu veux, mais des trucs,
tu dis, mais pas
c'est
le
pas
dos,
possible. Hein. Oui, il ne met pas que le doigt en fait. Et
le charpentier,
ouais, le charpentier, non, le menuisier.
Donc, alors,
et donc,
oui,
et donc, oui, ben voilà, il est donc anglais, donc il filme vraiment sans chichi, quoi. Il va à l'essentiel uniquement. Il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de vulgarité, il y a des gens. Avec
de
des gens vrais, de l'émotion, un peu de concerté. Oui, il y a un peu de drogue aussi. C'est marqué dans le site IMDb. Il est marqué que ce film est déconseillé à des gens trop jeunes ou sensibles parce qu'il y a des scènes de sexe et usage de drogue. Court, mais usage de drogue. Alors,
c'est pas bien.
Ah non, c'est pas bien du tout. Hein.
C'est pas bon pour la santé.
Ah ouais. Non, mais enfin, ce film est absolument génial. Il faut le voir juste pour voir la transformation physique de May.
T'aurais dû te raccrocher au thème, là, avec la drogue, là. T'aurais pu te raccrocher au thème.
Non, parce que la drogue, quoi. C'est sur la fin et tout. C'est quelques secondes, quoi. En fait, c'est là qu'on découvre que.
C'est pas grave. Les gens, ils ont pas vu le film. Ils sont en train d'écouter la critique.
Et que l'adultère aussi, c'est pas bon pour la santé.
Voilà. Enfin, quoi que ça dépend. Parce que justement, May, la grand-mère, là, qui se fait le fameux menuisier.
Alors, elle se le fait finalement?
Elle se le fait, elle fait pas semblant, et dans la manière de le filmer, ils font pas semblant non plus. Il y a trois scènes de cul dans ce film, et contrairement à un film américain, c'est pareil, c'est pas la scène de cul, genre, le beau héros se fait la belle jeune nana et tout. De toute façon, d'abord, la nana en question, elle en a 70, l'héroïne. Le héros, il en a la trentaine. Et il y a trois scènes de cul. Il y a une scène de cul qui est suggérée à travers les yeux de la mère. Sa fille rentre le soir, elle est donc avec son amant, dont à ce moment-là on ne sait pas encore que c'est le menuisier en question. Elle est avec son amant et la mère arrive et nous on a droit juste au son. Mais quand on voit les yeux de la mère, on imagine un peu l'état de la scène. Et
c'est
après,
un peu comme dans Le Vieux Fusil, Philippe Noiret, quand il y a sa famille qui on voit que les yeux.
Voilà.
Enfin, un tout petit peu.
Et là, la fille d'expliquer grosso à sa mère, après, enfin bon, nous donne les derniers détails, enfin tout ce qui pouvait nous manquer comme détails. Et après, j'ai dit trois scènes, c'est quatre scènes. On a deux très jolies scènes où le menuisier est avec la mère. Et là, elle est littéralement métamorphosée. Et on a la quatrième scène qui est terrible parce que la fille, en fait, à partir de, sans savoir que sa mère sort, enfin, est amoureuse de son amant, la fille a qu'une idée en tête, c'est de la mettre avec quelqu'un de son âge, quoi. C'est évident. Tu as un moment, tu as 60, 70 ans, tu dois sortir avec un vieux de 60, 70 ans. Et je vous dis pas la tronche du pépé. Il est bien gentil, mais bon. Et alors, le pépé a un orgasme sur la mère. À vous dégoûter de l'amour. Ou à hurler de rire, au choix.
Mais il n'y a pas que le physique du vieux. Hein, qui est...
Ah non, il n'y a pas que le physique du vieux. C'est
la technique.
C'est extraordinaire. Écoute,
le dialogue.
Non, c'est un collectionneur de.
Oui, c'est un collectionneur de faïences.
Pour la séduire, il lui parle de sa collection de faïences.
De faïences, de vieux livres, enfin tout. Enfin bref.
Un truc vraiment qui donne envie. Quoi.
C'est quasiment, tout mis en parallèle avec
la faïence.
C'est aussi érotique que Robert et Raymond Bidochon qui se rencontrent.
Ah, pire, parce que au moins Robert et Raymond, on sent qu'ils font un effort. Lui, c'est je sais pas. Si lui, il fait un effort jusqu'au moment où il essaie de se la mettre dans le lit. Alors quand il arrive à se la mettre dans le lit, mais c'est terminé, quoi. Autant avec le menuisier, il y a une espèce de romantisme et tout. Elle a un peu honte de son corps, mais il lui fait comprendre que c'est pas grave, machin, etc. Alors que là, ils arrivent dans la chambre, elle est assise sur le bord du lit et lui, il enlève sa veste, un peu comme un mec qui va aux putes. Il l'accroche sur un cintre.
Tu l'as vu souvent, des mecs qui vont aux putes.
Non, mais comment on te le représente dans un autre, quoi. T'imagines, quoi, si tu veux. Et il prend sa veste, il l'accroche sur un cintre et il fait en sorte qu'il n'y ait pas un pli. Et c'est vraiment, mais là, quand tu vois ça, tu dis putain, là, en souvenir, les dernières scènes que tu as vues où tu vois cette nana vraiment transfigurée, t'es là, ouloulou, c'est mauvais.
Donc il vaut mieux un jeune qu'un vieux. Donc,
ah ouais, ouais, non, non, mais puis non, non. C'est,
en conclusion.
En conclusion, ben oui, en conclusion, il y a un paquet d'anglaises qui ont remercié Anne Red, l'actrice, et qui lui ont remercié d'avoir montré que les femmes d'un âge mûr, elles aussi, peuvent avoir des désirs sexuels, et elles aussi peuvent être attirées par des gens, des hommes plus jeunes et plus beaux, et que c'est pas uniquement l'apanage des vieux.
Des jeunes aussi. Hein.
De quoi ? Des jeunes attirés par des jeunes ?
Bah ouais. Ouais, ouais.
Oui, bah oui, oui, c'est courant. Voilà, enfin bref, quoi. Donc, elle-même déclarait à propos du film que de par son passé, en fait, elle comprenait le personnage à 80%, 95%, et que les 5% manquants, c'était la scène où elle couchait avec un vieux, et qu'elle-même n'aurait jamais, jamais fait ça.
D'accord.
Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon film. Et
mais
je
elle
vous
fait des jolis dessins aussi, t'as pas parlé
de
jolis
dessins. Ah oui, mais je peux pas parler de tout le film. Ah, après,
faut pas
si
raconter
ça
tout
le
film,
bah non. Ils iront pas le voir.
Mais c'est
non,
vrai
mais
qu'il y a
juste,
des... Y a des...
Non, non, ce qu'il fallait dire, c'est que...
Non, non, mais les très jolis dessins,
déjà,
l'épisode
on a
est
vu
très joli.
Cul,
non, 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 surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les dessins qui nous sont présentés dans le film, il y en a un...
Qu'elle
a dessiné elle-même. Que l'actrice a dessiné pour le film. Donc, on sait pas lequel, mais il paraît que c'est le pire.
En fait, si vous voulez comprendre...
L'importance
des dessins, c'est que c'est à cause des dessins que la fille comprend que sa mère se fait le menuisier. Donc vous imaginez la teneur des dessins. Mais tout ça.
Et alors le charpentier devient quoi?
Ah, le charpentier. Le charpentier est devenu menuisier.
Mais est-ce qu'il a fini la véranda?
Si le menuisier, les philanthropes, c'est nul, tu vois.
Ça a l'air compliqué les drames psychologiques, hein.
Oui, il a fini la véranda, il explose.
Ouais, il y a une très belle véranda, ouais.
Voilà. Une très belle plus-value sur la maison et tout, la belle maison londonienne. Très cher, va valoir encore plus cher. Non, non, mais sérieux, c'est génial. Et si vous voulez en savoir plus sur le film, moi je vous recommande de lire le numéro 15 de Brésil. C'est le numéro de mars. Alors Brésil, c'est une revue cinéma qui se prend pas la tête et qui est super intéressante, et dans laquelle vous retrouverez l'entretien d'Anne Red, l'actrice principale, et de Roger Mitchell. Et franchement, juste en lisant l'entretien, on se marre et on a envie d'aller voir le film.
D'accord, bah, écoute, merci beaucoup. Et une salve d'applaudissements.
Et un petit message à tous ceux qui se font construire une véranda, méfiez-vous quand même.
Méfiez-vous, messieurs. Donc et ben maintenant, on va passer à Béatrice, qui va nous parler de la santé à la télévision.
Oui, la santé à la télévision, parce que la santé, c'est une des premières préoccupations des Français. Et je dis une des parce que selon les sondages, c'est une préoccupation plus ou moins importante par rapport à l'insécurité, on nous en a quand même beaucoup parlé, le travail, les enfants, etc., etc. Et pourtant, quand la santé va, tout va, hein, c'est ce qu'on dit.
Il paraît.
Ouais. Donc ça reste un sujet important qui concerne tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Et pourtant, bah, finalement, j'ai constaté que c'était peu traité à la télévision. Alors on a quand même deux grosses émissions récurrentes, le journal de la santé, tous les jours sur France 5, alors c'est la cinquième, c'est sérieux, les sujets abordés sont bien traités avec des explications relativement simples, mais pas simplistes, moi je pourrais juste leur reprocher, mais bon c'est tout personnel, de trop souvent traiter les sujets psy ou de sexologie, ça me fait d'ailleurs un peu penser au magazine Top Santé, c'est-à-dire que comme pour attirer les téléspectateurs quoi, avec des sujets plus croustillants, et d'ailleurs ils sortent une cassette... sur la psychologie, machin et tout, ils aiment bien.
Avant d'avoir bouffé mon idée, est-ce que je peux digresser deux secondes à propos de quand la santé, quand ça va, tout va ? Tu sais d'où vient l'expression ça va ?
Oui, c'est sur la merde.
Voilà, ça va bien.
Voilà, ça va bien, ça veut dire je chie bien. Il faut donner la couleur et tout, la consistance, c'est important, hein, tous les jours.
Bon appétit.
Merci.
Petit pâté. Donc nous avons également, comme autre émission, Savoir Plus Santé, le samedi sur France 2. C'est une émission qui existe depuis longtemps. Et c'est une émission bien faite, avec des invités bien choisis, c'est-à-dire des médecins spécialistes, experts, qui s'expriment bien et simplement, et qui surtout n'oublient pas de relativiser les choses, de nuancer surtout ce qui peut être dit par les présentateurs, parfois trop enthousiastes, ou à contrario, trop alarmistes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai constaté souvent que quand on parlait de médecine au journal télé aux 20h par exemple, ou même justement à Savoir Plus Santé, c'est à l'occasion d'un événement, c'est-à-dire une nouvelle thérapie ou une nouvelle technique, ou alors une maladie rare, ou un problème de santé publique, ou un problème sur un traitement, etc. etc. Et ces sujets sont souvent bâclés, ou en tout cas trop résumés. Or, en matière de santé, les simplifications ne sont pas toujours bonnes à faire, et elles finissent souvent par donner une fausse information. Et moi, c'est ce qui m'agace le plus. Parce que j'ai souvent l'impression que les journalistes prennent les téléspectateurs pour des cons, ignares, à qui on ne peut rien expliquer. Ouais. À qui on ne peut rien expliquer si c'est un peu pointu. Du coup, on résume et on dit des conneries. Donc, je vais prendre quelques exemples concrets. Par exemple, une nouvelle alarmiste qui a été donnée il y a quelques semaines aux 20h au sujet d'une pilule contraceptive qui, d'après une récente étude américaine, il me semble, entraînerait un risque du cancer du sein. Moi, je trouve ça criminel de faire une annonce de ce genre sans l'expliquer, parce que ça s'avère être une fausse information, parce qu'elle est trop résumée. Premièrement, il existe un nombre incroyable de contraceptifs différents, même en matière de pilules, qui n'utilisent pas toujours les mêmes dosages hormonaux, ni même la même hormone de synthèse. Or, une seule catégorie d'ostrogène, donc une hormone contraceptive, utilisée dans la contraception, était concernée par l'étude sur le risque du cancer. Et deuxièmement, il est grave de dire que telle ou telle chose entraîne un cancer du sein, lorsque l'on sait que les cancers en général, et le cancer du sein en particulier, n'a pas une seule cause, en tout cas, elle n'est pas encore isolée, mais plusieurs facteurs de risque. Et déjà, entre cause et facteurs de risque, il y a une nuance qui est quand même pas négligeable à apporter. Donc, c'est trop résumé, et du coup, c'est tout ce qu'ils nous ont montré, ils n'ont pas expliqué ce genre de choses, ils nous ont juste montré des témoignages de femmes qui étaient sous contraception depuis 10-20 ans, et qui, à la suite de cette annonce, ont tout simplement arrêté leur traitement, sans demander l'avis de leur médecin. Or, on sait qu'il est quand même extrêmement dangereux d'arrêter ou de commencer, en tout cas de faire de l'automédication sans l'avis d'un spécialiste. Donc, ils ont juste rappelé à la fin de leur petite annonce de 5 minutes que quand même, il faudrait aller voir son gynéco. Quelle bonne idée. Et ils n'ont rien expliqué d'autre. Je trouve ça grave. Autre exemple de nouvelles alarmistes, les épidémies. Donc l'exemple qu'on a eu dernièrement, c'est la grippe aviaire ou la grippe du poulet. Donc comme les médias n'ont rien expliqué à part nous montrer des images...
Les médias n'avaient déjà rien compris.
Ben, on se demande.
C'est moins pratique.
Ou en tout cas, s'ils n'ont pas compris, même s'ils avaient compris, ils n'ont rien expliqué. Moi, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de comprendre. Donc, ils n'ont rien expliqué sur la maladie et sur sa transmission. Donc, ils préféraient nous montrer des images chocs de massacres en gros de poulets. Alors que, bon, on a su quand même un peu plus tard que ça se transmettait pas en mangeant du poulet. Mais n'empêche que la conséquence, c'est qu'il y a plein de crétins qui ont arrêté de manger du poulet. Donc, du coup, je sais pas ce qu'ils bouffent.
Déjà, qu'ils mangeaient pas de viande.
Voilà, on peut pas manger de bœuf, on peut pas manger de poulet, on peut pas manger de saumon non plus.
Remarque, le poulet, attends, avant, il y avait la dioxine.
Pour peu qu'ils mangent pas de porc non plus, ils sont pas dans la merde.
Et les légumes transgéniques, hein? Tu as pensé aux légumes transgéniques?
Voilà, donc tout est, encore un exemple, tout est donné en bloc comme ça, on ne fait plus aucune nuance, ce qui fait que ça devient du grand n'importe quoi.
C'est grave en plus de
c'est plus de l'information.
Parce que le poulet,
c'est la
seule viande que tu peux servir quand t'as un repas où t'invites 300 personnes, où t'as beaucoup de monde qui viennent et que que tu connais pas a priori la population qui vient, le poulet c'est le seul truc que tu peux faire manger. Parce qu'il y a des gens qui mangent pas de vache, t'as des gens qui mangent pas de porc, t'as des gens qui mangent pas de
ceci, de cela. C'est vrai que le poulet en général tout le monde aime.
La volaille c'est la seule viande qui est politiquement correcte au moment.
Et c'est une viande blanche et maigre, donc pour maigrir, n'est-ce pas
aussi.
En tout cas pour pas grossir.
Le lapin. Le lapin, non.
Il y a que les petits enfants,
le lapin, c'est comme.
Tu leur dis que c'est du poulet.
Tu mangeais du chat, en fait. Tu mangeais du chat.
Non. Puis l'avantage du poulet, si tu veux, c'est que un poulet, ça a l'air tellement con que personne n'a pensé à dire que c'était pas bien de manger un poulet.
Si, il y a des Anglais.
Si, un Sarkozy.
Ultra anti.
Sarkozy est contre manger du poulet. Enfin bref, de toute façon maintenant, il n'y a plus de problème. Hein, ici, même en Asie, sur le poulet, on n'en parle plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Ah non, il n'y a plus de problème.
Réglé, là.
Donc il n'y a pas que les mauvaises nouvelles qui ont le privilège de la mauvaise information. Il y a également les bonnes nouvelles. Encore dernièrement, la greffe de visage. Vous en avez sûrement entendu parler au mois dernier. Donc la greffe de visage est enfin possible, c'est-à-dire qu'on prélève, en gros, on prélève la peau, la vascularisation et la terminaison nerveuse d'un visage sur un mort. Et on peut le regreffer sur une gueule cassée.
Ça veut dire que je pourrais pas échanger avec l'humain comme ça en fait, quand même, faut qu'il y ait
un... Ah bah justement.
Non,
donc
je ne voudrais pas t'affoler, mais c'est... ça me fait un peu peur de me réveiller à côté de Darty un matin. C'est pas que je t'en veuille pas.
Eh bien justement, quand l'information a été balancée, le truc qu'on a beaucoup entendu, bon, il y en avait quand même beaucoup qui le disaient pour rire. Mais le truc qu'on a beaucoup entendu, c'est que c'était atroce de penser que on pouvait croiser en fait un proche décédé.
Mais non, regarde,
sur
c'est
le
bon,
visage.
Je pourrais enfin ressembler à Elvis.
Ça rejoint ton livre.
Absolument.
Que ouais, que soit que c'était atroce que de retrouver le visage d'un proche décédé sur quelqu'un d'autre, ou de vivre avec le visage d'un mort.
Bah, je sais même pas, mais à la radio sur France Inter, ils ont bien.
Ouais, mais c'est la radio. Parce que moi je parle de la télé.
Oui, je sais pas, j'ai pas de télé, moi je te parle de la radio.
Et oui.
Voilà. Et donc eux, à chaque fois, ils précisaient que il n'y avait pas de ressemblance entre le.
Mais même.
Ils précisaient
moi, ça me paraît évident, mais s'il y a encore des gens qui en doutent, il faut continuer de l'expliquer.
Oui.
C'est évident que si on met une peau sur un crâne, ça moule le crâne. On va pas récupérer le visage.
C'est évident,
ouais. Et donc, on n'est pas dans volte-face de John Woo, espèce de merde là que j'ai vu dimanche dernier.
Michael Jackson, il a vraiment le crâne comme ça.
Mais non, il est bien ce film.
Oh, c'est crétin!
Ah oui, c'est crétin,
c'est
évidemment.
Très,
c'est
très
crétin.
Con, hein,
ah,
comme
oui,
film.
C'est
il voit même pas qu'il y a que le visage et le yéna, il est plus grand que l'autre.
Notre
faut être con quand même!
En plus, ils sont pas foutus pareil.
Non, et il a toujours sa cicatrice.
Il est plus gros.
Il est plus gros. Enfin bref, par contre, ils sont tous les deux poilus. Enfin bref, pour ceux qui n'ont pas vu, Volteface, c'est pas grave.
On passe quand même un bon moment avec Volteface.
Oh, bon, tu fais chier, hein. Pourtant, je suis allé jusqu'au bout.
Ça se regarde.
Enfin,
là,
bref.
Je dois avouer que je l'ai pas vu.
Ouais, bah, tu perds pas. Rien. Tu perds rien. Son John Woo, on connaît, hein.
Tu peux continuer à regarder des films chinois, c'est bon.
Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, il faut aussi nuancer les trop optimistes sur cette technique. Et rappeler que c'est vrai que c'est un énorme progrès, plutôt que d'avoir une gueule cassée réparée avec des lambeaux de peau qui sont pris quand même sur son propre corps, donc c'est
notamment pour les grands brûlés.
Très dur. Ouais, mais il faut quand même toujours nuancer et rappeler que tout le monde ne peut pas en profiter, que ce sont que il y a que quelques indications. En plus, pour l'instant, c'est pas très développé. Et ça, il faut le nuancer. Et ben, c'est ce que font les médecins quand on leur donne la parole. Donc, ce qui est fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Savoir Plus Santé, et qui est rarement fait justement sur une brève actualité de 5 minutes, et c'est très regrettable.
Et je viens de penser à un truc. Si on met un visage de fille sur une
c'est de la peau.
Et on va pas prendre de la peau du cul,
si
tout simplement.
Par contre, pour la barbe, je sais pas. Il y a pas la pilosité.
C'est les hormones, ouais, les hormones. Moon.
Bah oui, mais est-ce que ça rebranche tout, quoi?
Bah moi, justement, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas spécialiste.
Pour des gens qui sont défigurés et tout, et
ils s'en foutent un peu.
Ils sont peut-être pas à trois poils près.
C'est vrai que, ouais,
non, mais
ils s'en foutent un petit peu de savoir si
ouais,
ils vont
avoir
une
exactement, ils s'en foutent.
C'est une question intéressante. Et justement, on n'a jamais eu d'explication bien faite.
Imagine l'angoisse.
Dans le 20h, ça aurait sa place.
18 ans, 19 ans, tu viens de sortir ta crise d'acné et tout, pont, on te met un visage d'adolescent.
Ouais, ça les boule. Mais ça non plus, je sais pas. Et ça aurait été une question intéressante qui aurait pu être traitée. Alors c'est vrai que moi je suis un peu, ouais, je suis idéaliste.
Est-ce que
je rêverais.
Un bouton avec le visage d'un autre.
Bah ouais, répétez pas.
Grande question. Non, mais là elle était mieux dite.
Non, mais on avait compris quand même.
Est-ce que l'acné se transmet lors de la transplantation de visage? Ta-da-da.
Ah mais moi j'ai pas les réponses. J'en sais rien. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu les avoir parce que. Je me disais, je suis sans doute idéaliste. Moi, je rêverais d'une télé pédagogue, sincère, qui ne fonctionne pas à l'intéressement. Alors là, je suis très idéaliste. Et surtout dans ce genre de domaine, donc je voudrais une télé qui explique aux gens.
Mais faut arrêter de rêver, ma petite dame.
Oui, mais moi, je voudrais une télé qui explique aux gens. Et par exemple, pareil pour un sujet qui concerne beaucoup l'actualité en ce moment. Ça relie la santé, hein. C'est le malaise de l'hôpital, l'engorgement des urgences. Bon bah ça, hein, depuis cet été, ça n'arrête pas. Mais la plupart des émissions ou reportages sur ce sujet montrent toujours la même chose. Des couloirs pleins de patients, des médecins qui passent leur temps à chercher des lits libres dans les différents services, et des infirmières débordées qui râlent.
Remarque.
Alors,
Je t'avouerai qu'en matière de couleurs plein de passion, j'en ai vu une pas mal. C'était dans le film, le, ah mince, comment ça s'appelle, Les Invasions Barbares, là. Le, non, pas les, si, c'est ça, c'est Les Invasions Barbares, le deuxième, le film canadien. Donc,
Arcan.
Et ça commence sur un couloir d'hôpital. Et j'ai cru que l'hôpital était en travaux et qu'ils avaient dû mettre tous les malades, tous les patients dans les couloirs et que les chambres étaient en travaux. Non, mais... je sais pas si l'hôpital canadien c'est vraiment ça, mais ça fout un peu les boules.
En tout cas, en France, c'est vrai que c'est une réalité. Les urgences débordent, il y en a marre. Mais alors, quand on a vu ces images-là une fois, on a bien compris. D'accord? Les urgences débordent. Alors, ça fait pas avancer le schmilblick de nous montrer les images. Il faudrait peut-être nous expliquer. Certaines choses, les raisons des problèmes. Et en plus, hein, on les connaît. Enfin, en tout cas, les gens qui y travaillent, on sait où est le problème. Donc, qu'ils transmettent ces informations. La télé est faite pour ça. Donc, déjà, 70%, les urgences débordent. Parce que 70% des admissions aux urgences ne sont pas des urgences. Parce qu'il y a trop de gens qui viennent aux urgences pour n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller voir un médecin de ville. Ou parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Le médecin traitant, le médecin de famille, ça se perd. C'est bien dommage. Donc certains aussi viennent aux urgences parce qu'ils veulent profiter de tout le matériel et de tous les soins qu'offre un hôpital, avec comme argument, et alors ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est on a bien le droit. On paye, alors on a bien le droit. Donc on va venir faire chier toute l'équipe parce qu'on a bien le droit. Voilà, c'est l'argument qu'on entend tout le temps, à longueur de journée maintenant. Alors, il y a aussi trop de parents inquiets qui amènent leurs enfants pour un oui ou pour un non aux urgences, et quelquefois, juste pour être rassuré, le gamin n'a rien. Il est tombé, il a une coupure. Là, un enfant, ça tombe. Un enfant, ça se coupe.
C'est fait pour.
T'as des pansements chez toi, t'as de l'antiseptique, tu mets un pansement sur le front du gamin. Non, ils ont besoin d'être rassurés parce que déresponsabilité totale, on l'amène aux urgences. Et à contrario des enfants, il y a aussi énormément de personnes âgées hospitalisées aux urgences. Ça, c'est encore un autre problème et qui va être sans doute plus dur à résoudre, parce que ce sont des patients multidisciplinaires, c'est-à-dire que c'est des patients, ils sont âgés, ils sont malades d'un peu partout. Ils ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, digestifs, etc., etc. Donc personne n'en veut. Mais personne ne les veut dans le service parce que
ils sont
bah oui, mais non, pas en pulmonaire parce que de toute façon il a un problème cardiaque. Donc appelez la cardiologie, etc., etc.
Et encore, on a
donc
ils
se les renvoient et surtout ils les envoient aux urgences et le vendredi soir parce que personne n'en veut et qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est une réalité très crue, mais c'est la réalité.
C'est l'électricien qui veut rien faire tant que le plombier est pas passé, le plombier qui veut rien faire tant
que l'électricien n'est pas passé. Voilà, on en arrive là, voilà. On en arrive là, et là on parle de santé.
Lui, il avance.
Quoi.
Voilà.
Et c'est vrai que ça devient grave.
Il y a l'électricien qui passe la semaine prochaine ici.
Bah ouais, mais il va pas
peut-être.
Vouloir.
Il va passer. Bonjour. Et le plombier là, il a rien foutu.
Ouais, mais d'ici là, créer il aura une belle véranda.
Non, là, c'est pas sûr. Électricité, j'espère bien.
Après, un peu de menuiserie à faire là, c'est sûr.
Oh non.
Donc là, c'est un peu le même pour les mêmes raisons que l'hôpital ne s'en sort plus. Alors que pendant des années, on a vanté la qualité de l'hôpital français. Et c'est vrai que là, ils s'en sortent plus parce qu'effectivement, il y a trop d'admissions désordonnées. Et puis bon, il y a aussi un problème de personnel, un manque de personnel énorme. Tout le monde en a entendu parler. Donc, pénurie de médecins. Non seulement parce qu'on n'en forme pas assez. En plus, ils ont à nouveau rediminué le numerus clausus.
Non,
en tout cas, ils ne l'ont pas augmenté. Oui, mais ça, moi, j'y étais il y a 10 ans.
Oui, bah, j'y étais en même temps que toi et voilà.
Il devait déjà augmenter le numerus clausus pour prévoir la vague de massive de retraite de 2004.
Nous, le doyen était super fier de nous annoncer que le numerus clausus avait encore diminué de quelques places.
Bon, allez,
il faut minimum.
Je me jette à l'eau, j'y connais rien. C'est quoi le numerus clausus?
C'est vrai, le nombre d'admissions parce que la première année, c'est un concours en médecine. Tout le monde peut aller en première année, mais pour passer en deuxième année, c'est comme un concours.
Ouais,
donc voilà. C'est le nombre qui va passer en deuxième année.
Selon la fac, ça peut être assez grandiose. Moi, quand j'ai quitté Tours, si tu veux, on en était arrivé à 800 inscrits en fac, 80 places.
Voilà, mais c'était ça. Il y a 10 ans,
c'était avoir une belle fac. Tu vois. Après, ils étaient sûrs. Ils disaient,
il y a 10 ans, c'était très, très dur de réussir. Mais n'empêche qu'il y a 10 ans, ils devaient déjà prévoir les départs en retraite de maintenant. Ils ne l'ont toujours pas fait et les gens vont vraiment partir. Donc, il n'y a pas assez de médecins parce qu'on n'en forme pas assez. Quand on sait, en plus, le temps de réaction et qu'il faut 10 ans minimum pour former un médecin, on n'est pas dans la merde. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le nombre de médecins parce
bah
que
non, parce que c'est beaucoup plus général. Ce que tu décris non, là, c'est quelque chose qui est complètement général.
Non, il y a
on
voilà.
Pas que ça fonctionne comme ça à peu près partout.
Non, mais il y a un problème de nombre, mais il y a surtout, et on le dit pas assez, un problème de répartition géographique, parce que personne ne veut faire médecin de campagne à Boulogne-sur-Mer. Ou
elle est là la blague, parce que moi, je voulais
et encore,
faire
t'as pas parlé de Guéret.
En fin de Bretagne, il y a un milliard de personnes que je connaissais qui n'ont pas eu le concours non plus.
Je salue nos auditeurs de Guéret.
Donc c'est une répartition, c'est une mauvaise
bonjour
répartition.
Bonjour à tous nos auditeurs de Guéret.
Ok.
Ils n'ont pas de médecin.
Moi je suis nul en géo.
Ah bah c'est dans la Creuse.
Beaucoup de campagnes sont dépourvues de médecins de campagne. Donc c'est un problème de répartition géographique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par secteur. C'est-à-dire que les personnes dans les internes va vouloir faire gériatrie ou cancéro. Il n'y a plus
même
personne
chir.
Pour assurer.
Même
pour
chir ou autre,
si parce que chir quand même c'est prestigieux.
Chirurgie.
Non, c'est un autre problème. Chir c'est prestigieux.
C'est
et justement, il y a beaucoup de secteurs médicaux qui ne sont pas pourvus parce que non seulement c'est chiant, mais en plus c'est pas valorisé. Et je ne parle pas de sous. Je parle de valorisation des métiers. Et notamment de la médecine générale qui devrait être mieux valorisée parce qu'il devrait être au départ de l'orientation des gens. À partir du moment où on a donné des droits aux patients, c'est très bien. C'est vrai qu'ils ont des droits, ils ont droit de voir leur dossier, ils ont droit de comprendre, ils ont droit de savoir ce qu'on leur fait.
Ouais,
mais n'empêche que ça a entraîné quand même beaucoup de problèmes. C'est qu'ils changent de médecin tout le temps. Le dossier, donc du coup, aucun médecin ne suit vraiment le dossier, ne suit vraiment le patient. Et les gens s'adresse directement à des spécialistes et ça coûte cher ce n'est pas forcément un bon escient.
Il y a un truc symptomatique, Béa, quand tu écoutes les gens parler, ils ne parlent plus de patients, ils parlent de clients. Et moi j'ai déjà entendu à la radio, le médecin disait client lui-même et pas patient.
Tu regarderas
même quand un médecin tu regarderas
la définition de client dans le dictionnaire, ça ne n'inclut pas la notion d'argent.
Oui.
C'est quelqu'un qui reçoit un service. On peut très bien appeler un patient un client. Ça n'a rien de dégradant. Il n'y a pas de notion d'argent.
Moi, je suis et justement,
l'hôpital français est quand même, il faut le défendre parce que justement, on fait plein de choses et on apporte des bons soins, même si on n'arrête pas de lui taper dessus. On apporte de bons soins et justement, le patient vient sans argent et malheureusement, peut-être parce qu'il a trop pris l'habitude et il a bien le droit et il ne veut plus payer et il ne veut plus faire d'efforts.
C'est en ce sens-là que ça m'inquiète l'utilisation du mot client, c'est que le client a toujours raison.
Ouais, mais maintenant c'est le patient aussi, il est défendu. Je te dis, il est défendu par la charte de qualité.
Même quand il est mort.
Il est défendu par le droit du patient. C'est très bien, mais n'empêche que maintenant, on se retrouve à un problème qui est de toute façon est général dans notre société de maintenant. C'est la responsabilité. Il y aurait beaucoup moins de problèmes si les gens, donc les futurs patients, prenaient la responsabilité, leur responsabilité de savoir s'ils en ont vraiment besoin, et aux médecins, la responsabilité de refuser.
Quand tu dis maintenant, je suis pas sûr que ça ne date que de maintenant.
Non, mais n'empêche que ça s'empire. Je t'assure que ça s'empire.
Avant il y avait de l'ignorance, donc les gens se laissaient aller sur tout ce qu'on leur disait.
Et quelquefois c'était maintenant, plus facile.
C'est pas la déresponsabilisation ou.
Non mais je parle de la responsabilité.
Ça n'a certainement pas beaucoup changé à ce niveau-là.
Je parle de la responsabilité deux parties, mais c'est important de d'expliquer si justement les gens veulent faire l'effort de comprendre. Et justement le mois dernier, je vous avais parlé brièvement d'une émission que j'avais vue sur la 6. C'était trois volets sur les urgences où c'était juste filmé comme ça. C'est vrai que là il n'y avait pas d'explication non plus, mais on voyait vraiment le travail de différents médecins et différents personnels d'un service d'urgence à Grenoble. Et il y avait des choses. J'espère que ça a fait prendre conscience à certaines personnes que les urgences c'est pas un service social, c'est pas un service d'accueil, ce sont des urgences. Il y en a qui en ont vraiment besoin, des blessés graves, et il y en a qui en ont vraiment besoin. Et là justement ça montrait par exemple la centrale de téléphone de la centrale d'appel, pardon, centrale de téléphone, c'est pas très français. La centrale d'appel, donc là où on reçoit tous les appels qui sont donnés aux pompiers ou au SAMU, au 15. Et donc au départ, ce sont des secrétaires qualifiés, enfin des standardistes qualifiés qui prennent les appels. Et les médecins sont là aussi pour répondre. Ils perdent un temps fou, un temps précieux. Déjà, ils travaillent énormément, ils sont crevés, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas assez bien payés. Mais ils perdent un temps précieux à répondre à un espèce de connard qui veut à tout prix que les pompiers ou le SAMU se déplacent parce que sa fille a sans doute une grippe, et encore, c'est même pas sûr que ce soit la grippe, elle a un peu de fièvre depuis 3 jours et elle veut pas aller voir un médecin parce qu'elle ne veut pas se déplacer. Et le mec est en train d'engueuler le médecin au téléphone parce que le médecin ne veut pas faire déplacer le SAMU. On hallucine. Et c'est ça maintenant tout le temps, et je t'assure que c'est de pire en pire à ce niveau-là. C'est de pire en pire. Alors j'espère que ce genre d'images qui ont fait réagir le personnel soignant, donc qui a l'habitude de voir ça tous les jours, j'espère que ça fera réfléchir beaucoup plus de gens qui prennent un peu leurs responsabilités, quoi. C'est tout.
Bon, eh bien, on hallucine. Moi, je l'ai pas lu et je vous souhaite un bon soin, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur.
D'accord, alors et pour conclure sur la télé.
La télé devrait avoir un rôle, si plutôt que d'en parler comme ça anodiquement sur le manque de personnel, il n'y a pas assez d'infirmières. Là c'est pareil, il
n'y
a pas assez d'infirmières, il n'y a pas que les infirmières qui travaillent, tout le personnel est concerné, les manip radio aussi. Les kinés, ouais. les aides-soignantes, etc. etc.
Non, on peut dire que globalement les émissions spécialisées sont plutôt bien faites.
Oui, mais elles sont rares.
Que dans les informations, ça vaut pas mieux que le reste.
C'est
des soupçons d'informations. C'est une partie, c'est même pas un résumé d'informations, c'est juste une partie.
C'est de l'annonce, de l'effet d'annonce, je trouve que c'est aussi scandaleux que la presse Top Santé et machin là. Je trouve ça dangereux parce que on dit n'importe quoi aux gens. Et c'est vrai qu'après, du coup, il y a certaines conneries qui sont véhiculées, là, comme ça, depuis des années, qu'on répète, t'as des taches blanches sur les ongles, ah, c'est parce que tu manques des calciums. C'est con. Ça n'a rien à voir. Mais ce sont des choses comme ça. Mais c'est vrai. C'est des choses qu'on entend depuis des années.
Là, il y en a quand même 5 qui sont en train de regarder leurs ongles en se demandant s'il manque de calcium ou pas.
Moi j'ai les ongles pas très propres en fait.
Non, les
savons.
Les mécaniciens. Hein.
La campagne sur les antibiotiques, c'était très bien, mais c'était une campagne de pub. Il aurait fallu, pour moi, pour que les gens comprennent et acceptent que leur médecin ne leur donne pas systématiquement des antibiotiques, pourquoi ne pas expliquer, c'est pas dur à comprendre, justement, pourquoi les antibiotiques ne sont pas systématiques. Il fallait l'expliquer, ça prenait 5 minutes.
Inversement,
de faire un super spot de pub.
Ça va pas se faire en 5 minutes avec une explication claire et nette. Il y a des gens, ils sont habitués à penser d'une certaine manière, tu vas pouvoir leur expliquer autant de fois que tu veux. Ils changeront pas d'avis, ça va prendre au moins une génération.
Que ça prenne une génération.
Et les gens commencent à changer.
C'est dur, ça n'empêche pas d'essayer.
Ils changent d'abord dans le mauvais sens en disant maintenant, moi j'ai tout compris. Quand vous me dites il n'y a pas d'antibiotiques, c'est pas possible parce que moi j'ai tout compris. Je sais que quand on est malade, il nous faut des antibiotiques. Attends, moi je sais de quoi je parle. Hein. J'ai quand même fait de la méca. Donc le médecin, lui, il a fait que de la médecine. Alors bon, il croit savoir. Et puis petit à petit,
il faut commencer à leur expliquer.
C'est pas forcément que des explications claires et nettes. C'est aussi avec du bourrage de crâne. Non, ça va fonctionner.
Mais je voudrais que la télé serve à ça de temps en temps, justement.
Il y a l'effet salutaire de la piqûre.
Il y a l'effet inverse, hein, parce que finalement, t'as eu la
piqûre. Ouais, antibiotique, c'est par piqûre.
T'as eu les...
Oh ben non, ça va mieux là.
La grande, c'est la petite,
je vais vous la montrer.
Ah bah là, ça vous met de sain de le faire, mais certains le font. Hein.
Non mais la piqûre, c'est bien connu que ça soigne vachement mieux que tout le reste. Une bonne piqûre, hop là. C'est tout comme
les gens qui
même un mince.
Non, c'est la taille de l'aiguille.
Il y a des gens qui sont passés dans l'excès inverse. Il y a des gens qui sont anti complètement.
Ouais, mais c'est pas la majorité.
C'est pas eux justement qui remplissent les urgences.
Bah non, c'est pas la majorité parce qu'ils sont tous morts. Ils se soignent pas.
T'as des gens qui sont anti-antibiotiques, mais à mort.
Effectivement. Les biotiques,
quoi. Non, mais.
C'est pas forcément mieux non plus.
Non, mais justement, plutôt qu'un spot de pub très drôle, machin et tout, qui a coûté très cher, autant s'en servir pour expliquer dans un sens comme dans l'autre. Oui, et effectivement, bah, bourrage de crâne, et ça prendra une génération, voire plus.
Ça aura son effet aussi, cette campagne de pub.
Elle était quand même pas mal.
Elle a pas servi à rien.
Non, elle a pas servi à rien. Je crois que c'était quand même pas mal. Mais il y avait quelques trucs essentiels à rappeler, comme le kit de test que pouvait se procurer. Mais apparemment, là, c'était assez opaque parce que ça n'a pas été très bien financé non plus. Mais les médecins pouvaient se procurer un kit de test pour savoir si c'était bactérien ou viral, donc pour savoir s'il fallait donner ou pas des antibiotiques. C'est quand même pas compliqué. Et rappeler aussi, et ça n'a jamais été fait, que si on en arrive là, il y a eu une trop grosse utilisation d'antibiotiques, on fait des résistances et maintenant il y a des tas de choses qu'on ne peut plus soigner.
Et notamment toutes les infections nosocomiales.
Ça, c'est encore autre chose.
Oui, enfin,
les épidémies de bronchiolite. Est-ce que vous avez eu la bronchiolite, vous, quand vous étiez bébé? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça.
Moi non plus. Je savais pas que j'étais passée à travers de si gros dangers, en fait.
Non, mais maintenant, c'est hallucinant. Tous les hivers, on va te montrer des images à tous les 20 heures de séances de kiné pour les bébés qui ont la bronchiolite.
C'est un mélange entre la bronchite et la colite.
Voilà, c'est une infection pulmonaire des enfants, beaucoup développée effectivement par la vie en communauté, les crèches, etc. Mais aussi parce qu'il y a des résistances aux antibiotiques.
Enfin voilà, donc ta conclusion.
Ma conclusion.
Pour de vrai. Hein.
Ben je vais juste conclure sur ma nouvelle séquence sur la télé.
Tout le monde se la ferme pendant qu'elle fait sa conclusion, parce que sinon ça va repartir.
Non, parce que je vais juste ma conclusion sur. C'est une nouvelle séquence dans ma chronique télé. Moi, je dis bien, je fais mon programme toute seule. Je vais vous faire à chaque émission, le squatteur du mois. Parce que je vous en avais parlé la dernière fois, que j'avais regardé la télé pendant un mois et qu'à chaque fois, j'avais vu les trois mêmes personnes, Poulvord, Michael Youn. Et ben, ce mois-ci, qui est le grand squatteur des plateaux télé de ce mois-ci?
Pas une petite idée.
Roger
Mitchell
avec le film The Mother.
Non, Junio. À toutes les émissions, mais c'est vrai que son film, enfin Les Choristes, a l'air très bien. Donc, et puis je l'aime bien. Voilà, c'est tout.
D'accord, bah merci beaucoup. Alors une salve d'applaudissements. Donc voilà, bah, cette émission est finie. Alors, nous avons fait un temps 90 minutes, c'est pas mal, hein.
Bah c'est parfait.
Hein. 90 minutes d'action.
Ah oui, bien sûr.
En pleine forme, sans que personne s'ennuie. Enfin, j'espère. Enfin, nous, ça va. Hein.
Non, ça a été.
Pas trop.
Donc alors, j'aimerais encore remercier Monsieur Yann Beaujouan qui a fait les jingles. Enfin, pour l'instant, le, parce qu'il y en a qu'un qui est passé. C'est celui
du début.
Mais on le
remercie quand même.
Mais on le remercie quand même.
Et ouais, peut-être qu'un jour, on pourrait changer de jingle comme ça, là, pour faire la déco et tout.
Eh bien, écoute, mets-toi à la compo, il n'y a pas de problème.
Je croyais que tu avais un stock de jingles.
Bah oui, j'ai un stock, mais c'est mon stock.
Mais non, mais c'est pas vrai qu'il y a celui du début, il y a celui à la fin aussi.
Il y a celui à la fin, j'ai dit pour l'instant.
Ouais. Ah oui, d'accord, mais sur les. Ah oui, mais. Ah oui, bon, ouais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
Mais non, tu dis ça parce que t'es en
colère. Tu as trop couru, en fait.
Donc, alors, la prochaine émission, à peu près dans un mois. Alors, à peu près. Hein, ça fait...
On ne devait pas en faire une dans deux semaines, hein. Genre un week-end ou deux week-ends chez toi, non?
Voilà, donc la prochaine émission, à peu près dans un mois.
Voilà, hein, quand on ne sait pas en fait. Ouais.
Les questions techniques, c'est avant ou après l'émission, pas pendant, hein, merci. C'est flou, toi, c'est ça. Donc, et puis le prochain thème, ça sera, je l'annonce là, comme ça, on pourra pas changer. On en avait déjà parlé tous ensemble, ça sera sur la religion.
Waouh! Voilà.
Alors, bon courage, Béa, pour
on
tes dimanches matins.
Ouais, faire des études sur le terrain. Hein.
Moi, j'ai toujours pas fini. Moi, je vais peut-être arrêter finalement. J'étais pas mal arrêté. Hein. Parce que là, commencé, là, tout d'un coup, ça me dit.
Ma nouvelle chronique, j'ai arrêté de lire la Bible à la troisième page.
Et puis, on pourrait peut-être dire aussi, Darty, moi, j'étais un peu plus loin, on pourrait peut-être dire aussi un petit merci à un site internet qui parle de nous.
Oui, on a vu. Enfin,
donc, t'as fait un lien sur.
Oui, voilà, c'est. En fait, c'est libreradio.org, et en fait, ils font la promotion de contenu type radiophonique sous format libre. Donc, c'est exactement nous, en fait, voilà. Et puis d'autres gens. Donc. En fait, ils ont des pointeurs sur les émissions. Ils font aussi du streaming, de l'hébergement pour des gens. Voilà, non, mais des gens tout à fait.
Donc si vous voulez les voir,
donc on les salue.
Voilà,
on les salue bien haut sur leur site, sur notre site.
Voilà.
Voilà, on est
www.quoique.org.
Mais vous le savez déjà.
Mais vous le savez déjà. Voilà, je l'ai mis à la fin maintenant.
Oh, c'est mieux.
Donc, eh ben, au revoir tout le monde. À peu près dans un mois, hein, Flo.
Dans un mois, alors.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.